est consacré au réformisme, mais je me propose de le resituer dans le cadre du mouvement historique de la classe ouvrière. Il n'est pas inutile de souligner l'importance de cet exposé et de la compréhension de la nature de classe des organisations de masse, qui sont les organisations construites historiquement par la classe ouvrière pour se constituer comme classe, et qui, dans le même temps, sont contrôlées par des appareils bourgeois qui ont pour fonction, dans la lutte des classes, de canaliser le mouvement historique de la classe ouvrière pour son émancipation et de l'empêcher de sortir de cadres compatibles avec le maintien de l'ordre bourgeois. L'importance en est, d'une part, que si le stalinisme a une origine différente, sa fonction dans la lutte des classes n'est pas essentiellement différente aujourd'hui. D'autre part, et plus encore, parce que la grande majorité des travailleurs des pays capitalistes avancés se trouve sous le contrôle, on l'oublie trop facilement en France quand on traite avec mépris Force ouvrière ou la majorité de la FEN ou le Parti socialiste. On oublie trop facilement que la grande majorité des travailleurs sont sous le contrôle d'organisations réformistes. C'est le cas du prolétariat le plus important d'Europe, numériquement et par le fait que l'industrie de ce pays est la plus avancée, c'est-à-dire l'Allemagne occidentale. Et cette importance, qui était seulement un fait objectif depuis en fait 1933, que l'accession d'Hitler au pouvoir provoquait par la politique de trahison aussi bien de la social-démocratie que du parti communiste allemand dirigé par Staline, bien qu'opposé. Depuis ce moment, le prolétariat allemand politiquement était absent, alors qu'au cours des dernières années, il a commencé à reprendre sa place, et que tout permet de penser que cette place ne sera pas, que ce processus va s'accélérer et que le prolétariat allemand prendra toute sa place, mais qu'il la prendra dans une première phase par un mouvement qui passera entièrement dans le cadre du Parti socialiste du SPD, du Parti socialiste d'Allemagne, et comme est son nom exact d'ailleurs, soit dit en passant, parce que ça mérite d'être signalé, l'ancien Parti communiste, celui du temps héroïque, celui fondé par Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, ça s'appelait Parti communiste d'Allemagne, KPD, alors que le trognon qu'a reconstitué l'appareil stalinien dans la dernière période s'appelle DKP, c'est-à-dire Parti communiste allemand. Quant au Parti socialiste, bien qu'il soit certainement social-chauvin dans sa direction, sous une forme spécifique et liée à sa propre bourgeoisie, il s'appelle Parti socialiste d'Allemagne, et c'est incontestablement à travers ses rangs, à travers les rangs de la jeunesse socialiste, à travers les rangs des syndicats qu'il contrôle et qui lui sont associés, que passera le mouvement de la classe ouvrière allemande dans la prochaine période comme il est passé dans la dernière. Ce qui veut dire simplement que ces organisations deviennent l'enjeu d'une lutte de classe aiguë, bien entendu, mais exigent d'autant plus la compréhension de leur nature. La même chose est vraie pour l'Angleterre, c'est assez clair. Ce qui se passe actuellement en Angleterre montre précisément à quel point la classe ouvrière fait passer son combat par ses syndicats et par le Labour Party. C'est dans le Labour Party même que se manifeste cette chose en effet inouïe, comme le relève Information ouvrière, du point de vue des traditions du parlementarisme anglais et du réformisme anglais, que les travaillistes ont voté contre l'état d'urgence proclamé par Hess, et que le député d'une circonscription minière, qui ne s'était pas manifesté jusque-là comme gauchiste ou comme excité, a déclaré au moment où le mineur a été assassiné par la troupe, à la suite d'un heurt violent avec la police, que si le gouvernement ne faisait pas des excuses, il retournerait dans sa circonscription immédiatement pour y prêcher la violence. Ce langage n'a pas cours habituellement à Westminster. Il est vrai qu'on y voit rarement aussi... oui, c'est bien à Westminster que ça se passe. Il est vrai qu'on y voit rarement aussi un ministre se faire gifler par un député. Ce sont des choses nouvelles au Parlement anglais qui expriment sous une forme spécifique. Oui, au Parlement français, ce genre de les pugilats entre députés sont... une tradition solidement établie, d'ailleurs plus exactement qui n'a décliné qu'à l'époque du gaullisme, parce que ce Parlement ne jouant plus aucun rôle, personne n'éprouve le besoin, surtout qu'en plus c'est un mythe ce Parlement que nous avons, étant donné qu'il y a en général 12 députés en séance, comme vous savez, avec des boîtiers pour voter pour les autres, alors que le Parlement anglais a conservé les grandes traditions, il n'y a pas de boîtiers, seuls les présents votent, c'est d'ailleurs pour ça qu'F a failli tomber la nuit dernière, il s'en est fallu du déplacement de 4 voix. 4 députés seraient tombés en panne, ou au contraire, 4 autres auraient eu le courage de venir voter, ou les libéraux seraient tombés en panne quelque part avec l'état d'urgence, et c'était par terre, il n'y avait pas de problème. Bon, eh bien, on voit comment c'est à travers le Labour Party que cela passe, que la Socialiste Labour League ait choisi cette occasion pour déserter complètement la lutte dans le Labour Party et pour annoncer la proclamation du Parti révolutionnaire tout en transformant son quotidien en un tabloïd pour pouvoir y faire des photographies de toute la page et y parler moins de politique, ça c'est un drame effectivement, mais auquel malheureusement, enfin, que la tactique très, très conciliante que nous avons suivie pendant des années avec elle dans l'espoir de provoquer enfin la discussion politique qui l'aurait sauvée de ceci, ben, nous avons échoué dans ce domaine, on n'y peut rien. Mais il n'en reste pas moins vrai que socialiste, même si la socialiste Labour League ne le comprend pas, c'est là que ça passe. Et si vous regardez enfin les États-Unis, vous avez une situation encore plus caractéristique de ce point de vue, puisque l'ensemble, le prolétariat militant est regroupé dans des syndicats dont la direction est certainement la plus réformiste et la plus droitière du monde. Elle n'est même pas réformiste, en ce sens qu'elle affirme qu'elle n'affirme nullement lutter contre le capitalisme en tant que régime social, mais seulement pour une amélioration des conditions des travailleurs, de leur salaire, etc. Ce qui n'empêche que ces syndicats sont en proie actuellement et sont obligés de s'opposer à la politique de blocage des salaires de Nixon, ce qui a failli prendre une forme aiguë à plusieurs moments, notamment avec la grève des dockers et avec le renouvellement de différentes conventions collectives, où d'ailleurs Nixon a dû céder et accorder des augmentations de salaire, bien qu'en principe il avait dit qu'il ne le ferait pas, et que ce prolétariat le plus puissant du monde est en même temps en retard politiquement au point qu'il n'a pas encore constitué ce que Marx définissait comme l'objectif pour le prolétariat dès le manifeste communiste et surtout dès la première internationale de 1864, c'est-à-dire sa constitution en parti politique de classe. C'est d'ailleurs pourquoi les trotskistes ont traditionnellement combattu dans ce pays pour la constitution d'un Labour Party, c'est-à-dire d'un parti de masse appuyé sur les syndicats et qui s'opposerait aux deux grands partis qui monopolisent la vie politique aux États-Unis. Là, le prolétariat ne l'a pas encore fait, mais d'un autre côté, les développements actuels de la crise du capitalisme sont tels que l'impérialisme américain, précisément parce qu'il a, dans une large mesure, pu conserver une situation relativement privilégiée grâce aux immenses capitaux accumulés dans la période précédente, et même être obligé de venir au secours des bourgeoisies européennes au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, tout en profitant pour étendre son empire sur elle et y investir massivement des capitaux, et cela continue d'ailleurs. Mais néanmoins, aujourd'hui, la situation tend à se renverser, non pas du tout de la façon que dans le sens des imbéciles petits bourgeois qui traduisent la crise du dollar, ou ce qu'on appelle ainsi, en nous disant que, soi-disant, l'impérialisme américain ne serait plus la première puissance du monde, que maintenant ça se passerait à 3 et pas à 2, que tout est changé, qu'il n'y a plus de super grands, et ainsi de suite. En fait, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un, et ceci est vrai depuis fort longtemps. Et la seule raison pour laquelle l'impérialisme américain n'a pas liquidé la bureaucratie stalinienne, c'est parce que le contrepoids à l'impérialisme américain n'est pas du tout le gouvernement de l'URSS, que sa propre politique contre-révolutionnaire prive de toute capacité de lutte quelconque contre l'impérialisme américain. Au contraire, il doit de plus en plus s'appuyer sur lui, mais c'est le prolétariat mondial, et en particulier soviétique, qui n'est pas disposé à laisser porter atteinte à ses conquêtes fondamentales. Le soulèvement des grévistes polonais, des ouvriers polonais de la Baltique, n'avait pas d'autre sens fondamental que la défense des nouveaux rapports sociaux contre la politique de la rentabilité, c'est-à-dire de l'intégration au marché capitaliste mondial
qui se manifestait sous la forme de la hausse des prix et de la baisse des salaires appliquée par Gomulka. Sinon, l'impérialisme américain reste le plus puissant, il l'est plus que jamais, mais en même temps, il voit les contradictions fondamentales du capitalisme que jusque-là il avait pu écarter d'une certaine façon, se retourner et s'insérer en son cœur même, au point que maintenant l'impérialisme américain se trouve devant le même dilemme historique que les autres bourgeoisies, s'attaquer aux conquêtes du passé, y compris aux traditions politiques démocratiques des États-Unis qui sont une réalité, c'est certainement le pays où la presse est la plus libre, c'est un pays où la presse, si vous avez de l'argent, vous pouvez acheter une page du New York Times et y écrire que Nixon est la plus infâme canaille, et enfin, si vous employez un mot tel que canaille, il pourra tout au plus vous poursuivre pour injure, mais ça n'ira pas plus loin, choses qui sont de même la publication systématique par la presse américaine de documents volés au gouvernement, comme dans la dernière période vous l'avez vu à propos de la politique extérieure, mais il est évident que ça, et le fait qu'il n'y ait eu aucune poursuite en réalité, enfin il y a eu un vague simulacre d'enquête, personne n'est inculpé, rien du tout, on n'en parle plus. Et que d'ailleurs la majeure partie de la population américaine, tout en soutenant Nixon éventuellement dans sa politique, même ceux qui soutiennent Nixon ne considèrent pas du tout que la presse joue son rôle en publiant tous les documents qu'elle a pu se procurer par n'importe quel moyen, n'est-ce pas ? Bon, toutes ces traditions qui sont une réalité qui tiennent au passé des États-Unis, y compris les puissants syndicats, deviennent maintenant un obstacle pour l'impérialisme américain pour réaliser ses objectifs de blocage des salaires et d'accroissement des profits. Les contradictions là-bas s'accumulent et c'est pourquoi la grève de la General Motors, bien que les 350 000 ouvriers n'étaient pas du tout partisans du socialisme dans leur grande majorité, et bien moins encore partisans de participer consciemment à la lutte de classe mondiale et à son unité, elle a pris une importance historique. Vous pensez peut-être que je suis très malin, c'est possible, mais en tout cas je suis en train de vous donner un certain nombre d'éléments que vous trouverez dans le numéro de La Vérité qui est en préparation dans un article du camarade Juste. Je tiens à lui rendre ce qui lui appartient et en même temps à faire un peu de publicité pour ce numéro qui toutefois ne sortira guère que dans 2 semaines. Tous ces éléments font que l'importance de la question du réformisme et de sa claire compréhension est essentielle. Et aussi parce que beaucoup de ce qui va être dit à son sujet est valable, avec un certain nombre de changements que je ne sous-estime pas, avec le fait que l'appareil réformiste est lié directement à sa propre bourgeoisie et par son intermédiaire à l'impérialisme le plus puissant, gardien de la propriété privée dans le monde entier, alors que l'appareil stalinien, lui, n'est lié à l'ordre bourgeois que par l'intermédiaire de la bureaucratie contre-révolutionnaire du Kremlin. C'est en effet une différence qui a des implications importantes dans certaines circonstances, qui peuvent même être très importantes, qu'il l'était par exemple au début de la Deuxième Guerre mondiale, où les deux appareils se retrouvaient dans 2 camps opposés, l'appareil stalinien soutenant Hitler à cette époque dans la guerre, mais c'est au début de septembre 1939, Molotov avait prononcé un discours expliquant que c'était une guerre entre les plutocraties occidentales et les peuples, je ne me rappelle plus quel était le terme, les peuples dépossédés ou un terme comme ça, et je me rappelle avoir vu de malheureux jeunes communistes, l'appareil avait subi un coup terrible parce que l'appareil du PC français était entièrement orienté vers la guerre chauvine. Et le pacte Hitler-Staline était venu comme un coup de tonnerre pour eux. Trotsky les avait prévenus plusieurs années auparavant que c'était une chose tout à fait possible, mais eux, évidemment, ne l'avaient pas cru. Il était complètement désorganisé, et je me rappelle avoir vu un malheureux JC à cette époque qui distribuait ce texte de Molotov, ce discours de Molotov au Soviet suprême, sous forme dactylographié. On n'avait même pas encore remonté l'appareil au niveau des Ronéos. Évidemment, à ce moment-là, ça signifiait une différence importante. Par contre, dans leur fonction fondamentale de gardien de l'ordre bourgeois, passé définitivement du côté de l'ordre bourgeois pour la social-démocratie en 1914, pour l'appareil stalinien et les partis communistes en 1933, il est évident que cette question, qu'il y a des aspects communs essentiels. Je rappelle, j'ai l'efforce donc de situer l'exposé dans le cadre de la compréhension de ce que les marxistes analysent comme le mouvement historique de la classe ouvrière et comment il se situe par rapport à lui. Je serai obligé de faire appel à un certain nombre d'éléments d'histoire. Il faut vraiment que j'ai l'impression, d'après le premier cycle de cette école, que les camarades ont tendance à considérer que l'histoire du mouvement ouvrier, c'est de l'histoire. C'est pas ça qu'on doit enseigner ici. Il faut quand même leur rappeler que la théorie marxiste ne se considère elle-même que comme l'expression concentrée de l'expérience faite par les masses au cours de l'histoire de la lutte des classes, de la classe ouvrière, de la lutte de la classe ouvrière, et non pas comme quelque chose d'élaboré en laboratoire ou en bibliothèque, bien que certains éléments ont pu nourrir cette théorie qui provenait des bibliothèques, je veux dire par exemple la philosophie de Hegel ou les encyclopédistes français, mais que par contre l'essentiel, rappelez-vous comment Marx au moment de la Commune de Paris découvre la nouvelle forme de l'État qu'il n'avait pas préfigurée à l'avance et fait progresser son analyse sur la question de l'État d'une manière essentielle, de nouveaux progrès seront faits au moment de l'apparition des soviets sur la scène de l'histoire en 1905, que personne n'avait prévu à l'avance et qui a été une création de l'initiative créatrice des masses. Donc l'histoire fait partie de ce que nous devons comprendre, et après tout le livre le plus important actuellement à mon avis pour notre formation politique, c'est-à-dire pour les tâches que nous avons à remplir, c'est-à-dire celui de Beauvais, par parenthèse, qui a en ce moment beaucoup de succès, puisque même M. Gilles Martinien a dit du bien, il y a de quoi dire, à sa place je serais inquiet, mais je vais lui dire, mais enfin c'est une bonne chose qu'on en parle, c'est une bonne chose parce que si ça peut le faire acheter ça ne sera pas plus mal. Eh bien ce livre est un livre d'histoire et un livre d'historien, bien sûr un livre d'un historien qui est un historien marxiste révolutionnaire, membre de la comité centrale de l'OCI, et que quand il écrit, ben, c'est aussi en tant que membre du comité central de l'OCI, en tant que militant qu'il écrit, mais néanmoins un historien de profession qui emploie par ailleurs les méthodes des historiens de profession, qui donne des références à ses textes, qui recherche de nombreux, a recherché et a travaillé sur ce livre, oh, je ne sais pas, certainement au moins 15 ans si ce n'est pas 20, rassemblant les matériaux continuellement. Et, autrement dit, je crois qu'il faut que les camarades, je ne suis pas en train de vous demander de vous transformer en historien, je suis en train de vous dire que l'histoire du mouvement ouvrier a son importance pour nous et pour notre formation politique et théorique. Il faut d'abord rappeler comment, je l'ai peut-être fait déjà devant vous, je sais bien que je rabâche, mais là ça vaut la peine, il faut d'abord rappeler comment, dès que Marx et Engels sont arrivés à leur conception fondamentale du matérialisme historique, c'est-à-dire l'histoire de notre époque se réduit de plus en plus à l'histoire de la lutte entre des deux classes fondamentales, le prolétariat et la bourgeoisie, lutte qui ne peut se terminer que par la conquête du pouvoir par le prolétariat, par la dictature du prolétariat, laquelle elle-même n'a pas pour but d'instaurer un nouveau régime de classe où le prolétariat serait la classe dominante, mais de préparer l'abolition de toutes les classes, y compris du prolétariat lui-même, et par conséquent la dissolution de son pouvoir dans la société communiste sans classe. Dès qu'ils sont arrivés à ces conclusions, aux idées centrales du matérialisme historique, c'est-à-dire après que, en 1944, ils avaient constaté que l'un et l'autre, Marx et Engels, étaient arrivés aux mêmes conclusions par des chemins différents et s'étaient rencontrés en rencontre historique, je ne sais plus quel jour de septembre 1844, au café de, comment il s'appelle, au Palais Royal, hein. Il ne s'appelle plus comme ça, d'ailleurs il vient de changer de nom récemment, enfin, en tout cas c'est là qu'a eu lieu cette rencontre historique, eh bien ils se sont mis à, immédiatement, ou très peu de temps après, c'est-à-dire après l'expulsion de Marx de Paris, ils se sont retrouvés à Bruxelles, à la fois à développer la théorie et à construire une organisation sur la base de cette théorie. Pour eux, le prolétariat, et pour, à vrai dire, d'ailleurs à l'époque, c'était une idée admise par tous les petits groupes de l'embryon du mouvement ouvrier qui pouvait exister, pour eux, c'était une idée qui allait, c'est quelque chose qui allait de soi, la lutte ne se mène que dans le cadre d'une organisation. Le prolétariat ne peut exister, se constituer comme classe que par l'organisation. Et dès 1840, la fin de 1845, le début de 1846, ils ont achevé la rédaction de cet ouvrage fondamental, l'idéologie allemande, et ils entreprennent la construction d'une organisation qui s'appellera les comités de correspondance communiste, organisation clandestine par nécessité. À vrai dire, bien loin d'avoir à lutter à cette époque-là pour démontrer qu'il faut s'organiser, ils avaient à lutter contre la conception de l'organisation qui était conspirative par principe, du type carbonaris qui prédominait à cette époque, du type société secrète avec des règlements sur le fait que ceux qui trahissaient les secrets de l'organisation étaient immédiatement exécutés. Et c'est plus curieux, c'est d'ailleurs qu'on n'a jamais exécuté personne dans le cadre de ces organisations, même des traîtres authentiques et réels. Enfin, ça se tenait assez bien, qu'il y avait enfin, le genre de règles avec initiation des nouveaux adhérents selon des rites relevant des traditions même de la franc-maçonnerie, en particulier des carbonari qui les avaient reprises. C'est plutôt contre ça qu'ils luttaient. Eux, leur organisation était clandestine parce qu'elle ne pouvait pas être légale, mais elle visait à créer les conditions où il y aurait un parti légal. Ces comités de correspondance avaient à la fois pour but d'organiser l'action en commun et la discussion en commun sur une base politique qui n'était pas encore complètement définie, mais qui était celle de l'émancipation de la classe ouvrière en général. On connaît mal en général cette période et on a tort de ne pas comprendre. Dans la plupart des ouvrages consacrés à Marx, vous voyez à la formation du marxisme, y compris celui qui a écrit Botticelli, le seul homme en France qui sache à peu près de quoi il parle quand il parle de Marx et qui a des notions d'historien réel, qui a travaillé sérieusement, eh bien vous avez l'impression que cette formation du marxisme, c'est une série de bouquins écrits les uns après les autres. Oui, il y a eu la critique de la philosophie du droit de Hegel, il y a eu les articles des annales franco-allemandes, il y a eu l'idéologie allemande, et puis il y a eu le manifeste communiste. C'est une espèce d'histoire littéraire. Or, à partir du moment où Marx et Engels se situent sur la position de classe du prolétariat, ce n'est pas une histoire littéraire, c'est l'histoire du combat d'une organisation, y compris les efforts faits pour éditer l'idéologie allemande à cette époque, efforts qui finiront par échouer, sont faits par les militants des comités de correspondance communiste en Allemagne, dans différentes régions de l'Allemagne, qui rejoignent Marx à ce moment, par Weidemeyer notamment, et sont faits dans le cadre d'une lutte organisée, en même temps que le manuscrit circule naturellement parmi eux, est lu et discuté, et qu'en même temps, ceci nourrit les discussions sur la tactique. Par exemple, peut-on soutenir dans les élections municipales des bourgeois contre les féodaux qui tiennent la plupart des positions en Allemagne? C'est une discussion qui se mène. Les socialistes vrais, comme on les appelait, c'est-à-dire les socialistes moraux, se prononcent en contre, alors que Marx et Engels combattent pour. En même temps, se mènent discussions successives à Paris, à Londres, et en Allemagne, essentiellement, aussi en Suisse, sur l'élaboration d'un programme. Et dès ce moment se marque le double mouvement qui marquera toute l'histoire du mouvement ouvrier. Unification des prolétaires sur la base du combat de classe, sans condition d'adhésion à la totalité de la théorie correcte. Par exemple, jamais il ne serait venu à l'idée de Marx et d'Engels de demander que pour adhérer à l'une des organisations qu'ils constituent par la suite. Des camarades, même à l'époque où on a discuté des statuts de l'OCI, il y avait un premier projet où l'article 1 disait pourrait adhérer à l'OCI ceux qui sont sur la base du matérialisme dialectique, et fort heureusement il a été repoussé, ça ne tient pas en l'air. On rassemble sur la base d'un programme. Et encore d'ailleurs, on a parfaitement le droit d'être membre de l'OCI et de ne pas être d'accord avec tous les points de ce programme. Et par exemple, quelqu'un qui ne serait pas d'accord avec l'analyse de la nature de l'URSS, ça serait très bien parce que ça nous rappellerait l'ancienne tradition dans le mouvement trotskiste. C'est d'ailleurs peu probable aujourd'hui parce que les circonstances historiques sont différentes. Par contre, quelqu'un qui serait contre le mot d'ordre du gouvernement ouvrier à sa place dans l'OCI, bien qu'on puisse dire que le programme de la 4e internationale contienne ce point. Rassembler, unir sur une base de classe, tout en rompant avec ce qui tend à rattacher les travailleurs, le mouvement des travailleurs à la bourgeoisie, et par là même rompt leur unité. Tout ce processus se déroule, c'est ainsi qu'au cours de la formation des comités de correspondance, Marx et Engels sont amenés à rompre avec le plus doué des représentants du socialisme utopique d'artisans, un homme de grande valeur, Weitling, dont eux-mêmes avaient fait l'éloge 2 ou 3 ans auparavant, mais qui maintenant n'avance plus et recule, et avec qui ils ont la discussion fameuse qui se termine par le fait que Marx se met en colère, ce qui n'était pas tellement fréquent dans les réunions, c'était plutôt Engels. Par la suite, Marx a présidé les conseils les plus tumultueux de la Première Internationale, dans des conditions où il arrivait. Ben, on ne peut, quand on voit le compte-rendu, que l'admirer d'accepter toutes les conneries qu'il lui fallait entendre, y compris d'ailleurs dans beaucoup de cas sans y répondre quand il n'estimait pas que c'était nécessaire ou qu'il estimait qu'il y avait simplement une question importante à régler et que le fait que d'autres... c'était les autres, il arrivait toujours à ce que ce soit les autres qui en réalité auraient dû faire bloc contre lui, si on considère leur position fondamentale, qui s'engueulaient entre eux de telle sorte qu'ils pouvaient maintenir le Conseil Général dans le cadre fondamental de classe. Bien sûr que ceux qui lisent l'anglais, la lecture des procès-verbaux du Conseil Général, c'est quelque chose d'extraordinaire pour le génie de Marx, pas seulement comme auteur du Capital, mais comme homme politique dirigeant une organisation prolétarienne. Bon, alors donc là, quand même, il s'est mis en colère et il y a eu la fameuse apostrophe, Weitling ayant dit, Marx ayant expliqué la nécessité de développer la théorie, en particulier pour donner une base économique contre l'économie bourgeoise à la lutte du prolétariat, et Weitling répondant qu'il n'avait pas le temps et que les ouvriers n'avaient pas le temps de faire toutes ces études et qu'ils n'avaient pas besoin d'intellectuels et de beaux discours, ils avaient besoin d'une organisation solide pour... une organisation clandestine solide pour conspirer et pour se soulever, qui n'avait pas besoin d'ouvriers hautement qualifiés, mais beaucoup plutôt des bandits de grand chemin et des loulpen. À l'époque, on n'y avait pas encore joint la jeunesse intellectuelle, mais vous voyez que le gauchisme dans ce domaine n'a pas inventé grand-chose. Bakounine, il a ensuite joint les étudiants pauvres d'Italie. Et c'est de là que, enfin, tout ce qui a été dit au cours des dernières années par les gauchistes, Bakounine l'a dit beaucoup mieux, et avec cette différence que lui, il payait pour ce qu'il disait jusqu'au bout, ça on ne peut pas le nier. Et bon, mais enfin, de toute façon, il y a eu la rupture avec Weitling dans ce cadre, en même temps que se poursuivait un processus d'unification qui aboutit en 1947 à l'entrée du comité de correspondance de Bruxelles et de l'ensemble des comités de correspondance dans la Ligue des communistes sur la base d'un accord conclu que la Ligue des communistes va mettre en discussion son programme, que plus exactement que l'ancienne Ligue des justes va se transformer en Ligue des communistes. Les éléments essentiels, c'était ceux qui étaient en Angleterre, et ça signifiait en même temps l'intégration dans ce processus d'unification des dirigeants de l'aile révolutionnaire du mouvement ouvrier anglais de l'époque, des chartistes. Ils étaient entrés déjà dans les comités de correspondance à Londres pour engager cette discussion. Il y avait eu différents conflits, et puis finalement, il y avait l'accord pour élaborer le programme de la Ligue des communistes, qui devait mener au premier congrès dont la vérité a publié les documents récemment retrouvés. Je vous signale qu'ils vont paraître maintenant chez Aubier dans une édition bilingue avec la préface de Bertrand Andreas que je n'avais pas pu reproduire complètement dans la vérité pour des raisons d'autorisation d'un éditeur. Et le premier congrès, puis le second, aboutit à un accord d'ensemble sur la base d'un programme qui sera le manifeste communiste. Ce processus d'unification sur la base de classe se trouve exprimé par la définition que le manifeste communiste donne du mouvement de la classe ouvrière, mouvement qui se constitue comme classe par l'organisation et qui se constitue en classe dominante, dont l'objectif historique est de se constituer en classe dominante en s'organisant comme pouvoir, comme État dans la société. Le processus qui mène la classe ouvrière au pouvoir n'est pas considéré comme une rupture brusque, c'est-à-dire qu'il y aurait un monde où tout est calme et puis un beau jour, brusquement, la révolution. C'est le processus terminal, bien sûr il y ait des tournants brusques, c'est le processus terminal du mouvement de la classe ouvrière qui s'organise d'abord pour se défendre, mais en même temps pour son objectif historique inséparable de sa défense immédiate. Et en même temps, le manifeste définit les rapports des communistes avec l'ensemble du mouvement de la classe, dans la phrase fameuse et qu'on ne cite jamais trop souvent, les communistes n'ont pas d'autres intérêts que l'ensemble du mouvement. Les communistes ne sont pas un groupe séparé, distinct, radicalement séparé parce qu'il aurait des intérêts différents. Ils ne sont pas le parti de l'avant-garde rassemblé parce que cette avant-garde aurait des intérêts politiques ou des intérêts matériels différents de l'ensemble de la classe. S'ils sont une avant-garde, ils le sont seulement dans ce sens que c'est eux qui ont la vue la plus claire des intérêts de l'ensemble de la classe et de l'ensemble du mouvement ouvrier qui constitue cette classe comme classe. Je ne cite pas les textes exacts que vous avez sûrement entendus, vous n'aurez pas de peine à retrouver de toute façon, si vous en aviez besoin. Je vous ai déjà dit, entre parenthèses, que bien qu'elle soit un peu plus chère, la meilleure édition française du manifeste actuellement, ou la moins mauvaise, c'est certainement celle qui vient de paraître, l'édition bilingue de chez Aubier, non pas parce que vous avez besoin d'avoir le texte allemand, mais parce que c'est précisément Botticelli qui l'a préparé, et de manière un peu plus sensée, et avec un peu plus de travail que l'édition des éditions sociales, par exemple, qui est défectueuse sur plusieurs points, dont un que j'ai signalé plusieurs fois. Bon, le manifeste, c'est cela. Je n'ai pas le temps, bien entendu, d'examiner ce que fut la tactique de Marx et d'Engels au cœur de la révolution de 48 en Allemagne, ça en vaudrait la peine. La Ligue des communistes se reconstitue après les défaites subies par la révolution bourgeoise, et elle élabore, son comité directeur élabore en mars 1850 la fameuse circulaire dans laquelle Marx et Engels font le bilan de la révolution de 48 et concluent que la bourgeoisie aujourd'hui n'est plus capable de diriger même la révolution bourgeoise parce qu'elle a trop peur des masses ouvrières pour oser les mobiliser contre l'ancien régime comme cela avait été encore possible dans la grande révolution française et même en 1830 en France, mais comme ça ne l'est plus depuis juin 48, et que par conséquent, la classe ouvrière doit s'organiser dans une indépendance absolue à l'égard de la démocratie bourgeoise, ça ils en étaient toujours partisans, mais doit observer avec méfiance les gouvernements révolutionnaires bourgeois ou petits bourgeois qui pourront se constituer dans les premières phases de la révolution, les pousser chacun d'eux à se dépasser toujours davantage, pour finalement qu'il n'y ait plus d'autre place que celle du gouvernement du prolétariat, seul capable de réaliser même les réformes démocratiques bourgeoises que la bourgeoisie ne peut plus réaliser. C'est cette fameuse circulaire dont Trotsky repartira en 1904 pour élaborer sa théorie de la révolution permanente. Puis le reflux de la révolution s'accentue et la scission va se produire. Le processus d'unification qui a amené la Ligue des communistes, on se figure toujours que c'est un infime groupuscule. Elle a certainement rassemblé à son plus haut moment au moins 1 millier de membres, et ses membres étaient les cadres des organisations ouvrières ou des organisations démocratiques d'extrême gauche en Allemagne pendant toute la phase de la Révolution. Ils dirigeaient eux-mêmes des organisations de milliers et de milliers, de dizaines de milliers d'hommes. Cette ligue, donc, dont le processus d'unification a d'ailleurs attiré dans ses rangs, pendant la Révolution même, les meilleurs éléments révolutionnaires, y compris des militaires, des officiers de carrière, mais de sentiments démocratiques et venant du sud de l'Allemagne, et par conséquent habitués à diriger leur sentiment d'hostilité contre la Prusse, cette ligue des communistes va connaître une scission de caractère historique, entre les éléments qui ne comprennent pas que maintenant que la révolution reflue, maintenant que la crise économique, c'était une de ces crises périodiques du capitalisme qui s'était ouverte avec violence en 1847, est complètement terminée et qu'on assiste au contraire à une reprise économique foudroyante avec la découverte des mines d'or de Californie et à un développement des forces productives qui effectivement, mais si Mandel avait été là, il aurait pu le qualifier d'impétueux, alors il faut renoncer maintenant à une perspective révolutionnaire immédiate, c'est le point de vue de Marx et d'Engels. La fraction adverse, c'est-à-dire la fraction de l'ancien officier Willich et du vieux communiste Chappert, dit non, on ne peut pas renoncer à la révolution comme cela, il faut faire une organisation conspirative et préparer un putsch. Enfin, il ne le dit pas comme cela, mais ça revient exactement à cela. Il n'est pas inutile de dire que la scission se produit sur des bases de principes les plus claires, Le procès-verbal de la séance de scission du comité directeur du 15 septembre 50 a été retrouvé. L'intervention de Marx explique, nous disons, il faut préparer les travailleurs à des années, des dizaines d'années d'organisation patiente, de soulèvement, de défaite, de nouvelles victoires jusqu'à la victoire finale, je cite là encore de mémoire, et vous dites, il faut vaincre tout de suite ou aller nous coucher. C'est effectivement comme ça qu'il résumait à juste titre les positions des uns et des autres. Mais ce qui est le plus important, cette partie-là du texte était connue depuis longtemps, mais dans le procès-verbal retrouvé, il y a quelque chose de plus et qui a son importance. Dans la biographie de Marx par Nikolaïevski et Menschenhelfen, c'est-à-dire par des mensheviks dont l'un était devenu agent de Staline, Nikolaïevski, pour passer ensuite du côté de la CIA, avant de mourir récemment d'ailleurs, récemment ça conserve ce genre de choses, il a vécu assez vieux. Donc cet homme qui a joué un rôle particulièrement néfaste dans différentes circonstances historiques par-dessus le marché, mais qui avait pu écrire cette biographie parce qu'il était l'un des rares hommes à avoir accès aux archives qui sont enfermées dans l'Institut d'Amsterdam et auxquelles il est fort difficile d'avoir accès, et il y a encore plus sans doute d'avoir accès à celles symétriques qui sont conservées à l'Institut de Berlin-Est et de Moscou, qui ne publient pas toute une masse immense de documents qu'ils ont et qui ne publient pas, simplement, non pas parce que ça les gênerait, bien sûr, la bureaucratie, que Marx a dit ça en terre, et à ce point de vue, l'État et la Révolution les gênerait davantage, simplement parce qu'ils s'en foutent, ça ne les intéresse pas, ils n'y mettent pas de crédit, ni une forme d'homme pour faire ce travail. Eh bien donc, Nikolaïevski expliquait, Marx avait commis, dans la loi de la circulaire de mars 1850 sur la Révolution permanente, une erreur gauchiste. Il avait cédé à la pression des gauchistes de l'autre faction. Puis, au cours de l'été, il se ressaisit et le 15 septembre, c'est la scission. Or, ce texte que Nikolaïevski lui connaissait fort bien, d'ailleurs, dès le moment où il écrivait sa biographie, mais que moi je ne connaissais pas, non seulement quand j'étais jeune, mais même quand j'étais plus vieux parce qu'il n'avait pas été publié, ce texte dit « La tendance minoritaire a rompu non seulement avec le manifeste communiste, et il explique pourquoi, en brièvement, mais avec la circulaire de Marx. C'est-à-dire que Marx dit, vous rompez avec le programme de notre organisation, y compris la circulaire de Marx, c'est-à-dire la révolution permanente, qui se fondait sur une base matérialiste et non pas sur l'affirmation qu'un effort de volonté héroïque suffirait à abattre l'ennemi grâce à une conspiration et à un soulèvement militaire. De toute façon, sur cette base, les deux tendances rompent. La tendance soi-disant de gauche va immédiatement justifier les pronostics de Marx en se joignant dans l'émigration à l'émigration bourgeoise et petite bourgeoise démocrate contre Marx et Engels, qui resteront à ce moment-là sans organisation et qui, l'un écrit à l'autre, je ne me rappelle plus lequel des deux, vers 1857 ou 58, il me semble, le parti de la classe ouvrière, en ce moment, c'est toi et moi. Bien entendu, c'était écrit pour eux deux, et à l'époque, tous les autres auraient bien rigolé s'ils avaient su cela. Aujourd'hui, personne ne serait porté à rire sur cette affirmation, parce que l'histoire a confirmé que le parti de classe du prolétariat passait par ces deux hommes à ce moment-là, et pratiquement par personne d'autre au monde. L'histoire l'a confirmé, mais il faut comprendre ce que cela signifie. Ça signifie tout simplement qu'ils étaient les seuls à s'être maintenus sur la base des intérêts de classe, et qu'il ne faut pas croire d'ailleurs que leur isolement les empêchait de combattre. Ils écrivaient des articles dans la presse, y compris bourgeoise ou petite bourgeoise. Marx écrivait des articles pour gagner sa vie dans le New York Tribune, mais ces articles étaient devenus un centre d'intérêt politique international extraordinaire, bien qu'ils fussent mutilés par le rédacteur en chef qui n'en publiait pas la moitié et qui le payait fort mal. Ce qui est important, c'est que la politique qu'ils développaient, c'était la politique et la seule conforme aux intérêts de classe du prolétariat, même s'il n'y avait pas un seul ouvrier pour s'en rendre compte à ce moment-là, et il ne pouvait pas y en avoir. Le mouvement ouvrier était à son niveau le plus bas depuis le reflux du chartisme en Angleterre et le triomphe de Bonaparte et de la réaction dans toute l'Europe continentale. Très lentement, les syndicats anglais, mais sur une échelle infime, recommençaient à se constituer, mais c'était vraiment le niveau le plus bas. Puis vient la première internationale, et cette première internationale, Marx va y réaffirmer et faire passer par elle la conception à la fois de l'unification sur la base de classe et de la rupture avec la bourgeoisie. C'est d'abord l'article 1 des statuts par lequel, vous retrouverez les citations dans l'article que j'avais mis dans la vérité sur la commune, au moins une partie, par lequel se trouve, il est d'ailleurs au plus haut point intéressant de comparer l'article 1 des statuts, par exemple, de la première et de la troisième internationale, qui dans ces statuts a repris tout d'abord les considérants des statuts de la première pour marquer sa filiation. L'association est établie pour créer un point central de communication et de coopération entre les sociétés ouvrières des différents pays aspirant au même but, à savoir le concours mutuel, le progrès et le complet affranchissement de la classe ouvrière. En 1872, au dernier congrès, au moment où l'internationale va pratiquement cesser de vivre, et où Marx n'a plus pour but que de marquer des positions politiques pour l'avenir, il reformulera même l'article 1 dans les termes suivants, qui sont encore plus clairs et concis, et qui supprime la question de la communication pour en faire un tout, un parti politique de classe mondiale avec une direction. L'association est fondée pour organiser l'action commune des travailleurs des différents pays aspirant au même but, à savoir le concours mutuel, le progrès et le complet affranchissement de la classe ouvrière. Il n'était rien demandé de plus, et c'est ce qui fera d'ailleurs que l'Internationale unira dans sa première phase toutes les tendances authentiquement ouvrières, même avec les théories les plus réactionnaires dans la tête, comme les proudhoniens français à l'époque des ouvriers hautement qualifiés, et qui se réclamaient de Proudhon, que Marx avait invité à coopérer dans les comités de correspondance communiste en 1846 et qui avait refusé avec dédain, avec une lettre extrêmement dédaigneuse. Proudhon, dont on peut dire, si vous voulez, que c'est le père de l'autogestion aujourd'hui, bien que nos autogestionnistes ne tiennent pas à s'en réclamer, parce qu'en plus on sait que Proudhon était contre les syndicats et contre les grèves, ce qui est quand même ennuyeux aujourd'hui. Naturellement, d'ailleurs, les proudhoniens français qui étaient contre les grèves et contre les syndicats se sont empressés, une fois entrés dans l'Internationale, sous la pression des exigences de la montée du mouvement, de diriger de grandes grèves et d'organiser des organisations qui étaient en fait des syndicats, même si ça n'en portait pas le nom. Les proudhoniens français y étaient. Les syndicalistes anglais, dont les tendances réformistes ne s'étaient pas encore pleinement développées, mais il ne fallait pas attendre très longtemps, et Marx les discernait déjà, il ne faudrait pas attendre longtemps. Des éléments regroupés derrière Bakounine y trouveront également leur place, et bien d'autres tendances, en Suisse en particulier, et bien d'autres tendances, et Marx n'exige pas dans ce premier stade de construction du parti de classe qu'on accepte l'ensemble des éléments du programme. Tout son effort pendant les premières années consistera d'une part à faire adopter un certain nombre de positions qu'il considère comme fondamentales, c'est notamment la résolution sur les syndicats qui définit leur rôle et leur place et qui souligne que les syndicats ont un rôle essentiel comme rassemblement des travailleurs sur une base de classe dans le combat quotidien, dans la guérilla, comme dit Marx, contre le capital, mais qu'ils ne pourront effectivement jouer ce rôle quotidien que s'ils sont en même temps le terrain où se prépare l'émancipation du prolétariat en tant que classe, la destruction du régime bourgeois. La liaison entre ce qui devait s'appeler plus tard programme minimum et programme maximum, et qui aujourd'hui est dépassé par le programme de transition, se trouve dès ce moment, sous la plume de Marx, clairement affirmé. Il intervient d'autre part essentiellement, non pas pour qu'on adopte des positions justes sur tous les points, mais pour empêcher qu'on adopte telle ou telle position désastreuse. Et dans au moins un cas, il n'arrivera pas à faire prendre la position qu'il voulait faire prendre, à savoir de prendre position contre la puissance russe comme la réaction par excellence dans l'Europe de l'époque et de souligner que la politique extérieure de tous les pays bourgeois devait être surveillée sous l'angle de la lutte contre la Russie et que par exemple Napoléon III collaborait en fait indirectement avec le tsar contre l'unité allemande et contre toute possibilité de révolution en Europe, etc. Ça, il n'arrivera pas à le faire adopter, les Proudhoniens français ne voudront pas, ils seront obligés de reculer. Sur toutes les autres questions qu'il estimait décisives, il l'emportera, en particulier sur la nécessité pour les travailleurs anglais de soutenir le combat du peuple irlandais contre l'impérialisme, parce que c'est leur propre combat et lié étroitement au problème du prolétariat anglais, ce qu'il démontre à maintes reprises, et ce qui lui vaudra les attaques des anarchistes. Mais là-dessus, il parviendra à convaincre les dirigeants des syndicats anglais. Telle sera sa tactique. J'essaye par cette esquisse rapide du développement de vous montrer ce processus, cette perspective double d'unification sur une base de classe, de rupture seulement avec les éléments qui passent du côté de la bourgeoisie. Ainsi, le proudhonien Tolin, proudhonien de droite, parce qu'il y avait des proudhoniens de toutes sortes, Varlin aussi était un proudhonien, mais Tolin se retrouvera à Versailles et Varlin mourra héroïquement en combattant pour la Commune, comme vous le savez. Et d'ailleurs, après avoir, non pas devenu marxiste certainement, mais après avoir progressé néanmoins dans un sens qu'il rapprochait de Marx, en ce sens, même s'il n'en était certainement pas conscient, en ce sens qu'il a pris position pour l'action politique de la classe ouvrière et pour la nécessité en France de lutter pour le renversement du bonapartisme et pour l'instauration d'un régime démocratique. Tout à fait peu de temps avant le début de la guerre. Mais de toute façon, pour caractériser et symboliser sa position, le cap Tolin est clair. Tolin reste bien qu'extrême droitier, représentant des ouvriers bronziers qui représentaient une petite catégorie extrêmement privilégiée par rapport à l'ensemble des travailleurs, ce qui ne les empêchait pas d'avoir mené une des premières grandes grèves en France, et Tolin lui-même d'aller en prison à cette occasion. Puis ensuite, ils sortirent de l'activité, tout en restant membre de l'International, et personne ne lui contestera son titre. Jusqu'au moment où, toutefois, pendant la Commune, il devient sénateur à Versailles. Alors le Conseil général l'exclut, encore qu'il attend d'ailleurs d'avoir une décision de la section française des organisations de Paris pendant la Commune pour entériner cette décision. Le plus proche ami de Tolin, Chemallet, jusque-là, un droitier lui aussi, un réformiste, ce qu'on veut, écrit alors au Conseil général que lui, malheureusement, il a été malade pendant toute la guerre et qu'il était hors de Paris, à Tours, mais qu'il n'a rien de commun avec ce qu'a fait Tolin et qu'il tient à le dire, et le Conseil général inscrit dans son procès verbal qu'il m'en donne acte, c'est-à-dire que lui, bien que, il ne dit d'ailleurs pas « j'étais pour la Commune », il dit « je n'ai pas été à Versailles organiser la guerre contre elle », je ne crois pas qu'il était pour la Commune, mais il n'en dit rien dans sa lettre. Et le Conseil général, du moment qu'il n'a pas agi contre la Commune, c'est-à-dire qu'il n'est pas passé avec armes et bagages, ce qu'il est resté un droitier, un réformiste dans le camp de classe du prolétariat et qu'il n'est pas passé avec armes et bagages au service de l'ennemi, qu'il n'est pas devenu un instrument à gage payé du gouvernement, sous une forme quelconque, y compris sous la forme du sénateur, eh bien, le Conseil général lui donne acte de sa lettre et l'inscrit dans son procès verbal. Il y aurait énormément à dire là-dessus que je ne peux pas dire. Je dirais simplement que quand Marx commence à voir, au lendemain de la Commune, que l'International est menacée par l'offensive scissionniste des anarchistes, ayant constitué un groupe clandestin, et combattant sous le titre de combattre contre l'autorité, celle du Conseil général, prétendant que la Commune est la réalisation de leur théorie autogestionniste, si vous voulez, c'est pas le terme qu'ils employaient, mais leur idée c'était la fédération des communes sans aucune centralisation, et en même temps une centralisation féroce dans leur organisation révolutionnaire clandestine. C'est l'une des nombreuses contradictions de Bakounine, les organisations clandestines qu'il construisait, il en faisait tous les jours, si bien qu'il s'y perdait lui-même, d'ailleurs il ne savait plus très bien dans laquelle il avait fait entrer tel ou tel, ce qui entraînait des choses comiques, parce qu'en plus leur clandestinité était naturellement très relative et que tout le monde était au courant de tout, sauf de ce... partout, et d'ailleurs, pas de certaines choses dont il aurait bien voulu être au courant, comme dans l'affaire Netchaïev, mais de beaucoup d'autres. Bon, Bakounine instaurait toujours statutairement dans ses organisations un centralisme de fer qui n'avait rien de démocratique et dans lequel le comité directeur, c'est-à-dire lui, pouvait décider de tout et de toutes choses. Et par contre, alors, dans le mouvement de la classe ouvrière, que d'ailleurs il ne considérait pas lui-même comme un mouvement de classe, mais comme un mouvement de révolte élémentaire et instinctive contre toute autorité, qui pouvait regrouper aussi bien toutes sortes d'autres éléments, petits bourgeois déclassés, intellectuels, etc., il est contre toute centralisation et surtout contre la lutte politique, c'est-à-dire contre la constitution de la classe ouvrière en parti politique, luttant dans le cadre du régime bourgeois pour la conquête du pouvoir et, là où elle n'est pas possible immédiatement, présentant éventuellement des candidats au Parlement. Vous savez que la social-démocratie allemande avait eu déjà un certain nombre de députés au premier Reichstag, ce qui avait donné lieu au fameux discours de Bebel de solidarité avec la commune, le fameux discours « guerre au château, paix aux chaumières », ce cri de guerre des prolétaires se retentira dans toute l'Europe d'ici une dizaine d'années. À la face de Bismarck, vainqueur de la France et venant de proclamer son empire, ça n'était pas mal, mais Bakounine dénonçait la trahison de la social-démocratie allemande qui allait au Parlement et qui, en général, ne défendait que les ouvriers qualifiés allemands, classe devenue conservatrice, contre, alors que les vrais révolutionnaires, c'était les paysans pauvres et les intellectuels déclassés et les chômeurs de masse de l'Italie du Sud qu'ils préféraient entre tout autre pays ou de l'Espagne de l'époque. Devant cette offensive, qui a pour but, conscient ou non, de détruire l'international en tant que parti de classe, Marx cette fois va plus loin et à la conférence de Londres, il affirme que l'objectif principal du prolétariat, c'est la construction d'un parti politique de classe ayant pour but la conquête du pouvoir. Ça avait déjà été dit avant, mais c'était ensuite resté dans l'ombre, et là il le met au centre, ce qui aboutit à la scission de 1872, et dans le cadre de la réaction triomphante en Europe à ce moment, aboutira à la destruction de la première internationale, le dernier acte de Marx et d'Engels, étant de transférer le Conseil général, de faire voter le transfert du Conseil général à New York, ce qui entraîne leur rupture avec les blanquistes avec qui ils avaient combattu en commun les anarchistes, et ce qui entraîne aussi, ils en étaient parfaitement conscients, la fin de la première internationale, avec simplement ceci, que comme cela, il l'empêcherait de tomber entre les mains de gens qui compromettraient sa tradition historique par leurs sottises faites en son nom éventuellement. C'était ça son ultime objectif, en quelque sorte, passer. La continuité de l'histoire devait s'affirmer par l'affirmation d'un certain nombre de principes programmatiques d'une importance fondamentale. Ce fut le cas de la conférence de Londres de 71 et du congrès de la Haye de 72. L'idée centrale, c'est l'action politique de la classe ouvrière qui se constitue en parti de classe luttant pour le pouvoir. Il faut en même temps rompre, et on exclut les bakounistes, avec une tendance qui aboutit à la dislocation du mouvement de classe. Le double processus existe toujours. C'est précisément, des camarades m'ont reproché à la première session de ne pas avoir parlé de l'histoire du parti des groupes, puis de l'unification socialiste en France, et je ferai pourtant exactement la même chose. Maintenant, pour deux raisons. D'abord, elle est extrêmement compliquée, c'est-à-dire qu'il est presque impossible d'en donner une vue schématique au cours d'un bref exposé. Et ensuite, du point de vue du mouvement international, ça n'est pas elle qui joue le rôle décisif. Le rôle décisif, le prolétariat français était en tête dans la première internationale et la commune devait le signaler de manière évidemment sur la scène historique mondiale. Après la défaite de la Commune, le prolétariat allemand passe en tête du prolétariat mondial et il sera la direction politique du prolétariat mondial jusqu'en 1914 avec la social-démocratie allemande. Au cours des exposés que je ferai, des trois exposés que je vais faire à partir de la semaine prochaine et qui seront consacrés à la première période historique de l'imminence de la Révolution, c'est-à-dire celle de 1917 à 1923, et donc à la Révolution russe et à la Révolution allemande, toute une série de choses qui seront expliquées à propos de la social-démocratie ne seraient pas compréhensibles si le prolétariat allemand restera d'ailleurs le parti décisif, à part la Russie, jusqu'en 1933 dans l'internationale communiste. Et d'ailleurs, dans la deuxième internationale, c'est encore la social-démocratie allemande passer du côté de l'ordre bourgeois qui donnera le ton jusqu'également en 1933. Pour comprendre donc ce que j'aurai à exposer, il est essentiel de comprendre que la social-démocratie, ce n'est pas simplement l'assassinat de Karl Liebknecht et de Rosa Luxembourg, alors que je suis persuadé que beaucoup d'entre vous ne savent rien d'autre au sujet de la social-démocratie allemande de précis, sauf cela. En tout cas, ça, vous le savez. Et puis, le reste a rétrocédé dans l'ombre. Or, on ne peut rien y comprendre. On ne peut pas comprendre en particulier le fait sur lequel Brouet insiste, à savoir que la masse du prolétariat allemand va de nouveau s'engouffrer dans la social-démocratie et s'adresser à elle pour la réalisation de ses objectifs révolutionnaires en 1919, même après la répression de Spartacus et l'assassinat de Karl et de Rosa d'ailleurs, mais déjà après 4 ans de tranchées et de morts innombrables qu'il devait à la collaboration de classe de la social-démocratie, on ne peut pas le comprendre si on ne sait pas le passé historique. Le passé historique, c'est la construction du parti de classe dans l'Allemagne de Bismarck, puis de Guillaume II, dans des conditions historiques qui n'avaient rien de particulièrement facile, et avec le déploiement d'une initiative des masses et d'une capacité des cadres et de la direction qui n'a pas eu d'autre exemple jusqu'à l'international communiste et jusqu'au bolchevique. Et on peut dire même que le parti communiste allemand, qui était à meilleure école, puisque Marx et Engels étaient morts. Ils étaient à l'école d'Engels, certes, mais pas tout le temps, puisque Engels est mort en 1895, et le Parti communiste allemand, qui lui avait la direction beaucoup plus directe et étroite de l'international communiste, il est vrai qu'elle n'a pas été longtemps révolutionnaire, n'a pas eu le temps de former des cadres, des dirigeants d'une capacité comparable. Après l'assassinat de Karl de Rosa, après la mort de Franz Mehring et d'un certain nombre d'autres des vieux de la gauche allemande, les gens qui viendront ensuite lisaient le livre de Brouet, c'était de toute façon des personnages de beaucoup moindre envergure, sauf peut-être Paul Lévy, dont le destin malheureux est expliqué longuement dans le livre de Brouet. La social-démocratie allemande se constitue officiellement sur la base des enseignements de Marx et d'Engels, fait de la propagande pour la lecture du Capital, etc. Ce qui ne veut d'ailleurs pas dire qu'elle y avait compris grand-chose, certainement pas. D'une certaine façon, et pour comprendre profondément et fondamentalement l'enseignement de Marx, il faudra attendre Lénine et Trotsky. Peut-être certains d'entre vous ont lu les cahiers philosophiques de Lénine et se souviennent de cet aphorisme. Pour comprendre le Capital, il faut avoir assimilé la logique de Hegel, c'est pourquoi personne depuis Marx ne l'a compris, et cela correspondait d'ailleurs à une réalité profonde, y compris que lui-même, Lénine, n'avait pas complètement compris jusqu'au moment où il reprend ses études en 1915 pour préparer la période révolutionnaire qu'il prévoit. En tout cas, ceux-là n'avaient vraiment pas compris grand-chose. Le parti s'unifie comme parti de classe au congrès de Gotha par la fusion de l'organisation qui se réclamait de Lassalle et de celle qui se réclamait de Marx, également connue sous le nom de parti d'Eisenach. Mais la base politique, quelle était la base politique des Lassalliens? Elle mérite d'être dite parce que fondamentalement, c'était la même question qui nous sépare actuellement de toutes les autres tendances, ni plus ni moins, qui séparait sinon les prétendus marxistes d'Allemagne, qui n'y comprenaient pas grand-chose, comme vous le verrez dans un instant, au moins Marx, de Lassalle. Que disait Lassalle? C'était sur la question de l'État que portait la divergence décisive. La méthode de Lassalle était restée idéaliste, et pour lui, l'État représentait d'une certaine façon et malgré tout l'incarnation du pouvoir de la société tout entière, de l'autorité de la collectivité tout entière, et c'est pourquoi on pouvait, dans certaines circonstances, faire passer par cet État les aspirations de la classe ouvrière. Cela l'amenait à avoir inscrit dans sa tactique des négociations avec Bismarck, pour obtenir de Bismarck, alors qu'il n'existait aucune liberté d'association et que par conséquent, l'association ouvrière, l'association générale des ouvriers allemands qu'il venait de fonder en 1863, cette association était vouée à être dissoute par la police, elle était à la merci de la police prussienne depuis le premier jour, et son idée était qu'en négociant avec Bismarck, qui se trouvait à ce moment en conflit avec la bourgeoisie industrielle, il pourrait obtenir que Bismarck tolère le mouvement ouvrier dans un but d'équilibre. En soi, d'ailleurs, de telles tactiques ne sont pas condamnables, mais là où la salle allait beaucoup plus loin, c'est de faire de cette tactique l'axe de la politique, au point que son organisation se compromettait politiquement dans un certain nombre de circonstances avec le gouvernement de Bismarck et allait jusqu'à le soutenir dans certaines mesures contre la bourgeoisie avec laquelle il se trouvait en conflit violent. Cela se manifestait aussi par une autre chose, à savoir que l'organisation de la salle réclamait comme solution à la question du prolétariat, comme il disait, à la question sociale, comme il disait aussi, la formation de coopératives de production avec l'aide de l'État. Et précisément, c'était là le point le plus visible de ces erreurs, à savoir l'idée que l'État de Bismarck pourrait financer des coopératives qui assureraient le passage du capitalisme au socialisme. Ça n'était pas dit, bien sûr, aussi nettement que cela, mais c'était néanmoins cela l'axe de sa politique. La salle était mort en 1864. Son organisation, comme il avait des principes d'organisation très rigides, mais qui convenaient assez bien à la situation embryonnaire du mouvement ouvrier allemand face à une police toute puissante, cette organisation s'était maintenue et développée après lui avec des épisodes divers. Une lutte violente avait eu lieu entre l'organisation d'Eisenach, dirigée par Bebel et Wilhelm Liebknecht, et l'organisation de la salle, l'autre se réclamant de Marx et adhérant à l'international. Enfin, après d'innombrables épisodes violents, l'unification se réalisait à Gotha en 1875 sur une base qui signifiait en réalité la capitulation théorique des prétendus marxistes devant les lassalliens, puisque aussi bien sur la question de l'État, où le programme de Gotha se prononce pour un État populaire, un État du peuple, et sur la question des fameuses coopératives avec aide de l'État, sur la question d'un certain nombre de notions élémentaires d'économie politique, le programme de Gotha affirmait le droit intégral de l'ouvrier au produit de son travail, ce qui est une absurdité. Bien d'autres choses de genre, je ne peux pas reprendre tout, c'était pourtant un document très court, le programme de Gotha, il a une douzaine de points et tient deux pages. Marx en a fait la critique célèbre que j'espère vous avez lue, et sinon je ne saurais trop vous recommander de la lire. C'est le dernier document de Marx sur la question de l'État, et c'est vraiment, ça montre que cet homme malade et épuisé, qui n'arrivait plus à reprendre son travail fondamental, la rédaction du livre 2 du Capital, qui s'y est repris à 5 ou 6 fois au cours de ces années-là, sans jamais parvenir à aller jusqu'au bout, avait conservé néanmoins tout son génie quand il rédige cette critique du programme de Gotha, qui est un document d'une vingtaine de pages. On ne peut qu'être plein d'admiration et je vous recommande de le lire. Marx explique l'État populaire libre, si on le prend au sens strict du terme, un État libre, ça veut dire le despotisme le plus absolu, puisque ça veut dire un État libre par rapport aux citoyens. Si c'est pas ça que vous voulez dire, si ça veut dire par contre que vous devez lutter pour la République démocratique et que les lois allemandes ne vous permettent pas de le dire, alors ça c'est d'accord, mais c'est pas une raison pour dire les absurdités. Il fait la critique de des coopératives avec l'aide de l'État, en démontrant que c'est seulement lorsqu'on aura changé le mode de production dans son ensemble que la société dans sa totalité sera une sorte d'immense coopérative et que par contre des coopératives ouvrières construites dans le cadre du capitalisme ne peuvent tout au plus qu'avoir une valeur pour l'organisation de la classe ouvrière, comme l'avait dit la première internationale, pour son organisation en tant que classe, pour son émancipation, mais en aucun cas ne peuvent transformer le régime, c'est-à-dire exactement la critique de l'autogestion que nous pourrions faire aujourd'hui. De ce point de vue, il faut être juste, ce que dit Guy Mollet est parfaitement exact contre sur le fait que tant qu'on n'aura pas changé le régime social et établi un plan d'ensemble qu'il appelle démocratique, ça c'est pas la question, c'est une autre question, c'est faux, mais ça veut rien dire, mais c'est une autre question. C'est-à-dire que Guy Mollet ne veut évidemment pas poser la question du caractère de classe de l'État, bien qu'elle est très étroitement liée au caractère du plan, ça évidemment il ne faut pas lui demander cela, mais par contre si vous avez lu, je crois que c'est dans Le Monde d'aujourd'hui, la critique qu'il fait, il reprend les arguments essentiels qui étaient ceux de Marx, à savoir c'est seulement dans la société dans son ensemble qui peut être une coopérative et non pas l'économie dans son ensemble et non pas l'économie d'une entreprise prise à part. Bon, tout cela Marx l'explique dans la critique du programme de Gotha, il décide néanmoins de ne pas rompre publiquement avec les prétendus marxistes qui ont capitulé dans des circonstances qu'il faudrait raconter en détail, je ne le ferai pas, parce que, dit-il, et c'est une phrase fameuse et qu'il faut bien interpréter, un pas en avant du mouvement réel vaut mieux qu'une douzaine de programmes. Vous allez dire, mais c'est exactement le contraire de ce que nous disons, l'importance du programme. Marx n'opposait pas le programme au mouvement réel, et il pensait, il a expliqué ce qui est absurde, c'est que si vous ne pouviez pas arriver à un accord sur le programme, vous pouviez conclure avec les Lassalliens un pacte d'unité d'action et poursuivre la discussion jusqu'à ce qu'on arrive à une solution meilleure et pas à une capitulation théorique complète. Bon, mais dans ces conditions, avec le mouvement ascendant de la classe ouvrière qui pousse vers le parti de classe, et les travailleurs, de toute façon, verront dans le programme de Gotha tout autre chose que ce qui est écrit, à savoir leur constitution comme classe et leur combat comme classe contre la bourgeoisie, leur organisation en tant que classe, alors le programme pourra être dépassé parce qu'il n'y a pas là, y compris chez les Lassalliens, les agents directs de l'ennemi, il n'y a pas un appareil constitué représentant des intérêts étrangers à la classe ouvrière et qui s'installe dans son organisation, il y a simplement des gens qui déraillent complètement, mais qui du point de vue social et politique ne sont pas essentiellement différents des autres, ni même du point de vue de leurs erreurs, ni de du point de vue de leur origine sociale, ni du point de vue de leur lien avec la classe ennemie. Dans ces conditions, ils pouvaient espérer que, avec la propagande des marxistes, et en particulier celle d'Engels et la sienne, et celle de cadres ouvriers qui commençaient de plus en plus à se tourner vers eux, le progrès du mouvement réel permettrait de surmonter le programme de Gotha, et l'histoire m'a donné raison, puisque 16 ans plus tard, le même parti ayant cru immensément, se donnait à Erfurt un programme qui recevait le plein accord d'Engels et qui effectivement, au moins du point de vue de la théorie, éliminait tous les vestiges d'absurdité ou d'erreur fondamentale sur l'État et prenait une position correcte. Entre-temps, la social-démocratie allemande avait subi la crise du Ring, c'est-à-dire la crise provoquée par un intellectuel bourgeois, un professeur de faculté qui avait acquis une influence extraordinaire sur toute une série de cadres ouvriers allemands, obligeant ainsi Engels, fort heureusement, d'ailleurs vraiment on doit beaucoup à cet homme-là, nous devrions, si nous étions conséquents, élever une statue à M. Eugène Düring, parce que nous lui devons qu'Engels a écrit son fameux livre dans lequel M. Eugène Düring bouleverse la science, vous savez que c'est le titre original, qui est resté depuis le livre dans lequel des centaines de milliers d'ouvriers et de militants se sont formés à l'enseignement du marxisme, alors que les œuvres fondamentales de Marx restaient beaucoup moins accessibles pour eux jusqu'à une période plus récente, et on peut dire même toujours, aujourd'hui encore, si quelqu'un veut savoir ce que c'est que le marxisme et l'étudier, il doit lire l'Anti-Düring, et c'est le meilleur conseil qu'on puisse lui donner comme introduction à quoi que ce soit d'autre, avec la brochure « Socialisme utopique et socialisme scientifique » qui n'en est qu'un extrait. C'est dans l'Anti-Düring, y compris que Lénine et Trotsky ont appris beaucoup de choses, et ils sont passés au Capital ensuite, bien sûr, comme beaucoup d'autres, mais l'Anti-Düring a été écrit pour redresser la situation dans la social-démocratie allemande, et y est parvenu d'ailleurs assez vite, les extravagances d'Eugène Düring facilitant d'ailleurs les choses en plus. En 1879-18, à peine sorti de la crise du Ring, la social-démocratie allemande qui se renforçait rapidement, qui voyait en particulier le nombre de ses membres croître vite, qui commençait à s'organiser dans des régions de l'Allemagne où elle n'avait jamais pris pied, jusque dans la Bavière paysanne et dans les campagnes bavaroises où l'officier Vollmar l'ancien officier de l'armée bavaroise, dirigeait l'organisation de classe des paysans dans le parti de classe des ouvriers. C'est exactement ça, résumer ce que faisait cet homme qui devait être ensuite un droitier extrême et le premier protagoniste historique du socialisme dans un seul pays. Mais là encore, il faut comprendre que ce n'était pas simplement Folmar, réformiste et partisan du socialisme dans un seul pays, c'était celui aussi qui avait construit le parti de classe dans le cadre fondamental du mouvement historique de la classe, dans des conditions, dans une partie particulièrement arriérée, encore aujourd'hui d'ailleurs, encore aujourd'hui dominée par le catholicisme de l'Allemagne, lorsqu'elle se trouve devant son épreuve la plus grande, c'est-à-dire la loi d'exception. Prenant prétexte de deux attentats anarchistes, d'ailleurs même pas d'anarchistes organisés, mais d'éléments complètement dégénérés, et plus ou moins probablement entre les mains, on ne sait pas, de la police, on ne sait pas avec certitude, mais ça paraît peu douteux, contre la vie de l'empereur, dont le second attentat le blesse d'ailleurs très gravement, Guillaume Ier, et il en mourra rapidement après, Bismarck met à exécution un plan qu'il préparait de longue date. Il dira plus tard que c'était le fameux discours de Bebel de 1871 qui lui avait fait prendre conscience que la social-démocratie c'était l'ennemi mortel de la société et de la civilisation. Il fait adopter la loi d'exception qui met le Parti socialiste dans l'illégalité. Il faut comprendre qu'il avait eu aux élections de 77 500 000 voix et seulement 12 députés, parce que bien entendu le vote le système électoral était fait pour que les travailleurs aient moins de représentants que les autres, alors que si ça avait été la proportionnelle, ils auraient dû en avoir 60. Et que même après les attentats des dernières élections qui ont lieu, parce que Bismarck dissout le Reichstag qui n'a pas voulu voter la loi d'exception pour en faire élire un autre, après une campagne de chasse aux sorcières assez extraordinaire, même là ils ont encore 437 000 voix. La loi supprime du jour au lendemain toute la presse socialiste. Sur 47 journaux socialistes, il leur en reste deux. Et deux qui d'ailleurs ne se maintiendront qu'en changeant de titre et en reculant politiquement à l'extrême limite du possible. Sans trahir complètement, mais vraiment enfin en mettant de l'eau dans leur vin au maximum. La loi, dans les premières semaines, 217 associations, 5 caisses de retraite et de maladie, 127 périodiques et 268 écrits non périodiques sont interdits. Les syndicats qui étaient beaucoup plus développés déjà que le parti en plein développement sont pratiquement liquidés. Enfin, la loi comportait la possibilité d'introduire ce qu'on appelait le petit état de siège, et la police l'introduit successivement dans toutes les grandes villes, ce qui veut dire qu'elle peut expulser de la ville n'importe quel militant socialiste ou ouvrier qu'elle désigne comme tel, le condamnant à perdre en même temps son travail et souvent d'ailleurs à mourir de faim avec sa famille, parce que les patrons étaient d'une solidarité parfaite et qu'il y avait une liste noire. Des milliers d'ouvriers socialistes sont ainsi chassés de chez eux, obligés soit d'émigrer à l'étranger, soit de partir dans une autre partie de l'Allemagne, absolument sans ressources. Le petit appareil du parti, qui n'avait rien de commun à ce moment-là avec ce qu'il a été par la suite, pensait que le père Liebknecht était permanent, mais que Bebel, principal dirigeant avec lui, n'a pas été permanent jusqu'à après 1890, qu'il vivait d'un petit atelier de je ne sais plus quoi qu'il avait monté. L'appareil se trouve détruit, il n'y a que les députés qui restent légaux, les neuf députés, mais qui eux-mêmes subissent une pression énorme et développent par là même leur tendance opportuniste naturelle aux parlementaires, dès qu'ils se trouvent sans contrôle de l'organisation. La solidarité s'organise vis-à-vis des milliers d'emprisonnés et de chassés de chez eux, mais elle ne peut faire que quelque chose de limité. Enfin, après un an d'hésitation et de flottement, avec l'intervention directe de Marx et d'Engels contre une tentative opportuniste d'une revue publiée en Suisse par un intellectuel membre du parti et bien intentionné, certainement sincère, il y a sacrifié toute sa fortune, mais qui explique dans cette revue que les coups que prennent les socialistes doivent être une occasion pour eux de réfléchir sérieusement, qu'ils ont été trop sectaires, qu'ils ont été trop impoli avec toutes sortes de gens, et ainsi de suite. Vous pensez ce que Marx et Engels ont pu penser en lisant ce genre de ce fameux article qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, signé 3 étoiles. Après donc un conflit où Marx et Engels interviennent directement pour redresser la situation, effectivement le redressement va commencer, et dès lors ce parti mis dans l'illégalité complète, et dans une illégalité on en a connu d'autres, c'était pas le tsar avec la Sibérie si on veut, mais c'était tout à fait finalement comparable. Les gens n'étaient pas déportés en Sibérie, mais ils s'en tiraient mieux en Sibérie que les ouvriers chassés de partout en Allemagne, obligés de se retirer à la campagne sans ressources, etc. Et bien malgré cela, un hebdomadaire central du parti est fondé à Zurich. Il n'est pas sans intérêt de noter que son rédacteur en chef pendant toute cette période sera Bernstein, le futur révisionniste, qui à ce moment collabora étroitement avec Marx et Engels, puis avec, d'ailleurs surtout avec Engels. Marx était déjà dès ce moment-là très malade et n'était pas dans l'activité directe. Engels avait repris en charge toute la correspondance. La correspondance d'Engels à elle seule après la mort de Marx tient, il me semble, 5 volumes de 1000 pages. Des œuvres complètes, et déjà dans la période des dernières années de Marx, c'est lui qui tient la plume dans presque toutes les lettres avec les socialistes vraiment du monde entier, correspondant aussi bien avec les États-Unis, où il a fait un voyage d'ailleurs quelques années avant sa mort, qu'avec des pays où le mouvement ouvrier commençait, avec la Roumanie, avec je ne sais quoi, les différents pays balkaniques, comme ils parlaient leur langue à tous, ça facilitait les choses. Et de partout, on le sollicitait pour faire une préface à une édition du Manifeste communiste, et il arrivait à répondre presque toujours, ou pour écrire un article, ou pour donner des conseils. Engels, avec l'aide d'Engels, la situation s'est redressée. Le social-démocrate de Zurich hebdomadaire commence à paraître, et dès lors, l'organisation de classe va commencer à se reconstituer en Allemagne dans la clandestinité et ne cessera de se développer. À la fin de la période de la clandestinité, c'est-à-dire en 1889, le social-démocrate parviendra à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, ce qui pour l'époque est immense. Il faut comprendre, les tirages de la presse à l'époque étaient 10 fois moins grands, y compris pour les grands quotidiens, qu'aujourd'hui, à des dizaines de milliers d'exemplaires dans toute l'Allemagne. Et le ministre réactionnaire des postes, expliquera au Reichstag que le maître de poste rouge, comme il l'appelle, de Zurich, c'est-à-dire en fait c'était un ouvrier qui était chargé de cela, qui organisait l'ensemble de la pénétration en Allemagne, fait parvenir beaucoup plus ponctuellement son courrier à domicile que les postes allemands officiels, n'est-ce pas ? Ce qui était l'hommage le plus extraordinaire rendu à la puissance de l'organisation de la classe quand elle a un cadre politique correct. Ce cadre, dans les dernières années d'ailleurs, les rédacteurs du Social-Démocrate ayant été expulsés de Zurich sous la pression de Bismarck vont reprendre la publication à Londres, et le Social-Démocrate entrera par ballon entier, aussi bien, je me souviens en ce moment de 2 cas parmi ceux que la légende de l'époque a rapporté, ou l'histoire. L'un, ils sont rentrés massivement dans des bustes du Kaiser, et l'autre, c'est encore plus drôle d'ailleurs, ils sont rentrés par tonnes dans les cales du cuirassé de la marine impériale qui ramenait Guillaume II de son voyage triomphal à Londres. Évidemment, c'était des ouvriers qui chargeaient les bateaux, c'était des marins prolétaires qui surveillaient les cales. C'était, de ce point de vue, la classe ouvrière est toujours plus forte que n'importe quelle répression quand elle a la base d'organisation politique nécessaire. Même si la répression d'Hitler est parvenue à briser le prolétariat allemand, c'est parce qu'il avait été d'abord divisé et vidé de son contenu de classe consciente, de ses objectifs historiques, par la politique stalinienne et la politique réformiste. Il faut bien le comprendre, ce n'est pas la puissance de la Gestapo qui a brisé la classe ouvrière, elle est venue s'ajouter, mais elle n'aurait jamais pu le faire si la politique réactionnaire de Staline, opposée et conjointe à celle de la social-démocratie, ne l'avait pas faite avant. Et en même temps, bien qu'on arrête les candidats, bien qu'on disperse les réunions électorales, bien qu'on persécute continuellement, mais il fallait néanmoins maintenir des élections. L'ensemble du système de Bismarck reposait sur des élections au suffrage universel et pas de liberté d'organisation pour l'opposition, surtout pour l'opposition ouvrière. Donc les élections devaient avoir lieu au Reichstag, et à chaque élection, après un flottement, la social-démocratie progresse de nouveau jusqu'à ce que... Et non seulement cela, mais il faut comprendre, pour le prestige qu'avait la social-démocratie sur des hommes comme Lénine ou Trotsky, qui même, disons, même avant octobre, n'étaient quand même pas des petits garçons, qui avait dirigé le soviet de Petrograd en 1905, etc., mais c'était quand même le grand parti vers lequel il se tournait, Lénine encore plus d'ailleurs que Trotsky plus tard, eh bien il faut comprendre que ce même parti, créé en 1883, la revue théorique Die Neue Zeit, la nouvelle époque, que dirigera Kautsky et qui sera le document, la revue théorique du mouvement ouvrier mondial jusqu'en 1914, celle où y compris des bolcheviks sont heureux et fiers quand ils ont l'occasion d'écrire, où Rosa Luxembourg écrira jusqu'à sa rupture avec Kautsky, où Franz Mehring écrira également jusqu'à sa rupture et qui ne se produira d'ailleurs que plus tard. Où Riazanov, futur dirigeant bolchevique, enfin dirigeant non, mais futur militant bolchevique, est un collaborateur régulier, etc. La revue où tout le monde va chercher l'inspiration, où l'on débat de la révolution de 1905 et où Kautsky, qui à ce moment est plus à gauche, qui n'est jamais allé, où c'est le moment où il écrit sa brochure Le chemin du pouvoir, et il publie des articles qui vont dans le sens de la théorie de la révolution permanente, dans l'analyse de la révolution de 1905, et bien cette revue est fondée en 1883, c'est-à-dire au moment où le parti est dans la plus dure clandestinité. Et le même parti entreprend la reconstruction du mouvement ouvrier international, c'est lui qui en 1887 convoque le premier congrès ouvrier international, d'où à partir de là une série de congrès se succéderont, et la deuxième internationale se constituera. Il est évident qu'il y jouait un rôle dirigeant, et il ne pouvait pas en être autrement, et c'est lui encore qui fera adopter par son poids politique, par exemple, après l'unification en France, la résolution qui condamne la participation au gouvernement bourgeois de comment il s'appelait, j'allais dire Mitterrand, non c'était Mihran, c'est pas mal, mais Mihran était encore membre du Parti Socialiste, et Jaurès était d'accord avec lui. Contre Jaurès, le congrès international, je ne sais plus lequel, sous le poids de la social-démocratie allemande, apportera son appui à l'aile opposée à la participation en France, à Jules Guesde, et ce sera adopté. D'ailleurs, Jaurès, ce qui est tout à son éloge, se soumettra à cette décision avec discipline et ne reposera plus la question jusqu'à sa mort. Je ne sais pas ce qu'il en pensait, je ne sais même pas si on sait ce qu'il en pensait. Il a eu beaucoup d'autres problèmes à se poser, mais il était déjà le principal dirigeant du Parti français. La position de Jules Guesde était beaucoup moins forte que la sienne, pour des raisons diverses. Bien. J'ai tenu à évoquer cette époque parce que si on ne comprend pas cela, il est impossible de comprendre qu'en dépit de ce qui s'est passé après, ça a pu être, et ça peut être encore aujourd'hui d'ailleurs, en fonction de... Évidemment, si le réformisme existe encore aujourd'hui comme une force politique, c'est évidemment à la trahison du stalinisme qu'il le doit. Si l'international communiste avait continué à être dirigé par Lénine et Trotsky, il est douteux que le réformisme serait maintenu à son niveau de puissance politique dans des pays comme l'Allemagne, en tout cas, et même comme l'Angleterre. Mais de toute façon, et même dans ce cas, il faut comprendre que c'est par rapport... Je ne dis pas que les militants ouvriers actuels en Allemagne connaissent l'histoire de la période de la loi d'exception dans tous les détails, etc. C'est d'ailleurs pas impossible, parce que le prolétariat allemand, qui était le plus... Enfin, dès l'époque du manifeste communiste, apparaissait comme théoriquement le plus capable d'Europe, et pendant toute la vie de Marx et d'Engels, c'était le cas. Au contraire, ses capacités de culture politique et théorique, il les avait perdues dans la dernière période, mais il y a toutes les raisons de penser qu'avec le développement de son mouvement de classe, il est en train de les reprendre et que des milliers de jeunes vont renouer avec le passé historique et chercher à s'y retremper d'une façon ou d'une autre, y compris pour y trouver des leçons contre Brandt et contre sa direction. Et pour démontrer, ce qui n'est pas difficile, que quelles que soient les hésitations de Bebel et son centrisme dans la dernière période de sa vie, ça n'avait quand même rien de commun avec Brandt. Et ça, et pour l'utiliser, ils vont puiser là-dedans. Mais même si les ouvriers ne le savent pas, sous la forme d'une claire connaissance de faits en 1883, en 1887, c'est la tradition sur laquelle ils vivent. C'est sur cette base, c'est sur la base de cette tradition historique qu'ils engagent le combat aujourd'hui, et ils ne peuvent pas faire autrement. Et c'est pourquoi cette période de la social-démocratie allemande, même sous une forme très schématique, il était important de la rappeler. C'est de là qu'est parti, et c'est à partir de ce parti-là que s'est construit la deuxième internationale comme parti de classe, dont les bolcheviks étaient membres, et d'ailleurs les bolcheviks étaient jusqu'en 1914 pour la scission en Russie sur la base des problèmes particuliers. Enfin, ce que je viens de dire est d'ailleurs faux. Les bolcheviks avaient été obligés à la scission par la défense de leur point de vue contre les mencheviks. C'est seulement à partir de 1912 que Lénine considérera la scission comme définitive. Jusque-là, il n'a pas exclu la possibilité d'une réunification de toutes les tendances si les conditions politiques en étaient créées. En 1906 et 1907, il l'a d'ailleurs tenté. Après, sous l'effet de la révolution de 1905, le parti s'était réunifié, et jusqu'à 1912, ce n'est que la fraction bolchevique du Parti ouvrier social-démocrate russe. Ce n'est pas le parti bolchevique, qui d'ailleurs prend le nom de parti ouvrier social-démocrate russe, parce que comme ils étaient la majorité, ils estimaient avoir le droit au nom, mais enfin, de toute façon, c'est seulement après 1912 qu'il considérera la scission définitive, mais il n'est pas du tout pour une telle scission dans l'ensemble. Ce qui se passe, néanmoins, c'est qu'après, c'est précisément après la grande victoire que marquait pour le parti social-démocrate la chute de Bismarck, l'abandon de la loi d'exception, et immédiatement après des élections qui lui donnaient cette fois 1,5 million de voix et le permettaient de se réinstaller dans la légalité avec une puissance infiniment plus grande, avec des cadres qui s'étaient trempés dans la lutte illégale, avec les masses qui venaient à lui de plus en plus nombreuses, puisqu'en 10 ans il passera de 1,5 million à 3 millions de voix en 1901, je crois, ou à peu près. 3 millions, ce qui était énorme, ce qui lui donnait déjà 30% des 25 ou 30% des sièges, je ne me rappelle plus. C'est précisément à partir de cette époque que le tournant va commencer et que cette formidable organisation de classe, il faut savoir comment ça fonctionne. En France, nous n'avons jamais connu ça. Une telle organisation de classe prend les ouvriers au berceau, si je puis dire, parce qu'elle a ses crèches où les ouvrières mettent leurs enfants, ses jardins d'enfants, puis il y a les organisations d'enfants socialistes, puis il y a les pionniers, et puis il y a les syndicats, puis ils grandissent, il y a les syndicats et le parti, il y a les jeunesses socialistes. Les jeunesses socialistes organisera Liebknecht dans les premières années du XXe siècle, avec certains conflits avec le parti, mais néanmoins dans l'ensemble, parvenant Liebknecht, le fils, bien sûr, le père était mort. D'ailleurs, une des raisons que Karl Liebknecht arrivait à faire un tas de choses, c'est aussi parce qu'il était le fils de son père et que l'appareil n'osait pas trop l'attaquer. Lui, ça joue ce genre de choses dans l'histoire, parce que le père, c'était le fondateur du parti, il ne fallait pas y toucher, et que c'était quand même gênant. Bien que Liebknecht était lui personnellement le plus indépendant qui soit, n'a jamais cherché de poste dirigeant et se contentait de son rôle de journaliste et d'agitateur, beaucoup plus, et de député éventuellement, comme agitateur, beaucoup plus à l'aise là-dedans que dans un poste dirigeant. Il le prenait quand il le fallait absolument, mais il n'aimait pas ça. Donc, c'était la jeunesse socialiste, c'était le parti. Et vraiment, ça, un militant, un ouvrier était pris dans l'organisation du parti de la naissance jusqu'à sa mort, pour laquelle il y avait des caisses de solidarité qui payaient ses funérailles. Et je pourrais prendre tous les détails de sa vie à chaque stade. S'il était malade, c'était la caisse de maladie organisée par les syndicats ou par le parti suivant les circonstances, etc., etc. Il faut comprendre ce que c'est que la puissance de cette organisation. C'était pas... beaucoup plus longtemps avant, dès la rédaction du Capital, Marx avait parfaitement défini le double caractère des conquêtes de la classe ouvrière réalisées dans le cadre de la société capitaliste, en soulignant que la législation des fabriques imposée par les travailleurs anglais, c'est-à-dire essentiellement la limitation de la journée de travail, était d'une part une grande chose pour la classe ouvrière parce qu'elle lui permettait d'avoir des loisirs plus grands en limitant à 10 heures la journée de travail et donc de pouvoir s'organiser, lire, réfléchir, etc., etc. Et d'autre part, parce qu'elle était déjà la préfiguration du contrôle de la société sur sa propre vie économique, donc de la société socialiste. Pour Marx, les conquêtes ouvrières étaient d'une part des réformes dans le cadre de cette société, mais d'autre part déjà des préfigurations du passage au socialisme où l'humanité contrôle consciemment, maîtrise ses propres processus économiques et sociaux. La même chose pouvait se dire de l'organisation de classe. C'est d'une part une organisation qui est dans la société bourgeoise et donc inévitablement de la société bourgeoise et qui tente à s'y installer à un stade déterminé, et c'est d'autre part la préparation de la société sans classe future et d'abord de la société de transition où la classe ouvrière exercera son hégémonie politique dans le cadre de sa dictature plus exactement. Enfin, il y a toutes sortes de savants se sont efforcés de démontrer que lorsque Marx parlait d'hégémonie politique de la classe ouvrière, ça n'était pas exactement la même chose que la dictature du prolétariat, et que le fait qu'après la commune, il ne dise plus toujours dictature du prolétariat mais hégémonie a une grande importance, c'est évidemment puéril. En particulier d'ailleurs dans la critique du programme de Gotha, vous retrouvez exactement l'analyse à propos de l'État populaire libre, de la nécessité de détruire l'État bourgeois et de construire autre chose, dont l'exemple est la commune, qui, etc. Enfin, lisez-le et vous le verrez. Bon, donc, ce double caractère est clairement compris par Marx. Il s'affirme également dans la fameuse résolution sur les syndicats du Congrès de Genève. Et il doit, naturellement, Marx n'avait pas prévu, parce que les détours du développement historique concret sont d'une telle complexité qu'aucun cerveau humain, même le plus génial, ne peut envisager de les contenir tous, et Marx savait très bien cela. Marx n'avait pas prévu que cette contradiction qui existait et qu'il connaissait se développerait au point de marquer toute une période historique. Le XXe siècle, c'est la période marqué dans l'histoire du retard de la révolution prolétarienne, du fait que des appareils bourgeois usurpent la direction des organisations historiques construites par le prolétariat. On peut dire, si on veut caractériser le XXe siècle, il n'est pas terminé, mais en tout cas jusqu'à ce jour, et c'est déjà presque les trois quarts, eh bien c'est cela. Mais du point de vue de l'histoire à grande échelle, ça n'est quand même qu'un détour de l'histoire. Ça n'est quand même qu'un détour dans l'époque qui est l'époque de la révolution prolétarienne ou de la chute dans la barbarie. Nous ne pouvons pas encore trancher si l'histoire l'enregistrera simplement comme époque de la révolution prolétarienne ou si aucune histoire ne l'enregistrera plus puisqu'il n'y aura plus d'historien ni d'ailleurs d'autres. Ça, évidemment, nous ne pouvons pas le savoir avec certitude, mais nous ne devons pas oublier, et c'est sans doute pour cela que nous sommes là ce soir, que dans une mesure qui ne peut jamais être évaluée complètement à l'avance, mais qui peut donc être plus grande que nous-mêmes ne le pensons, cela dépend de nous. Quoi qu'il en soit, et d'ailleurs le livre de Brouet montre admirablement comment, naturellement, il est possible de retracer tout l'enchaînement des événements historiques, et une fois que la révolution allemande a été battue, de démontrer pourquoi elle l'a été, mais on s'aperçoit en même temps qu'à tel ou tel moment, il n'aurait pas fallu changer énormément dans le déroulement de l'histoire pour que cela se passe autrement. On peut par exemple imaginer ce qui se serait passé si, ça c'était quand même pas inscrit dans les lois objectives de la lutte des classes, si au printemps de 1923, Lénine avait pu se relever une troisième fois de son lit paralysé et reprendre la direction du parti pour un an, ce qui aurait sans doute eu pour conséquence que ce n'est pas qu'il aurait pris directement ou il aurait fait prendre par Trotsky la direction des développements en Allemagne parce qu'il en aurait compris toute la plénitude. Qu'est-ce qui serait passé à ce moment-là? Je considère que c'est un jeu stupide de vouloir développer cela. Mais si je le dis, c'est simplement pour la raison suivante. C'est que pour l'avenir, par contre, ça n'est pas un jeu stupide, c'est notre jeu et c'est le jeu décisif. Dans quelle mesure ça dépend de nous, ça n'est pas inscrit à l'avance et ça peut être beaucoup plus que nous ne croyons. C'est d'ailleurs le sens de ce que nous faisons, ce qui ne veut pas dire que notre action peut être efficace si nous substituons notre volonté à l'analyse du mouvement de la classe et que nous l'y opposons. Par contre, si nous savons nous inscrire en nourrissant le mouvement de la classe des objectifs politiques et de l'organisation dont il a besoin dans son développement, alors ce rôle peut être à certains moments déterminant. Le problème du parti, c'est cela. Le parti est à la fois subordonné dans l'histoire, ce n'est pas le parti qui fait l'histoire. Si les conditions objectives de la révolution socialiste n'avaient pas mûri pendant des siècles, si la crise historique du capitalisme n'était pas sans issue, si les forces productives pouvaient encore croître impétueusement, dans ce cas-là, le parti ne pourrait rien y changer. Si le rapport des forces entre les classes se renverse de nouveau et que la classe ouvrière subisse une grande défaite, comme en 1923 en Allemagne, eh bien tout le puissant parti bolchévique n'a pas pu empêcher la dégénérescence de la révolution et sa propre dégénérescence. Et même Lénine vivant ne l'aurait pas empêché, tout au plus, comme le disait sa femme en 1926, s'il était vivant, il serait aujourd'hui en prison. Bon. L'hypothèse que je faisais, elle était limitée à quelques mois, et là l'intervention de la personne de Lénine pouvait effectivement modifier un certain nombre de choses. Une chose certaine en tout cas est que s'il était intervenu au 12e congrès, Staline n'aurait jamais été secrétaire, ne serait jamais resté secrétaire général, ce qui n'aurait d'ailleurs pas empêché la bureaucratie de l'emporter, mais sous d'autres dirigeants, c'est tout. Mais le parti n'est donc pas le facteur déterminant de l'histoire. D'un autre côté, lorsque l'ensemble des conditions de la révolution sont réalisées, sauf une, l'organisation politique du prolétariat et sa centralisation sur les objectifs révolutionnaires, alors la présence du parti, la présence de l'organisation de l'avant-garde devient déterminante, bien qu'elle soit toutefois subordonnée à sa capacité d'exprimer correctement, y compris avec les tournants brusques que cela comporte, les besoins de la classe ouvrière et de son avant-garde, les besoins politiques. Il est donc important que nous comprenions cela. La social-démocratie va commencer à s'installer dans sa position de puissante organisation en développement continuel, mais dans laquelle en même temps il n'est pas possible dans l'immédiat d'envisager le renversement révolutionnaire du pouvoir bourgeois très peu démocratique qui régnait en Allemagne à ce moment, d'ailleurs très peu démocratique. Il ne l'était pas possible, il n'y avait pas de situation révolutionnaire, le capitalisme était encore ascendant. Dans ces conditions, on se cantonne dans la vie quotidienne de consolidation de la puissante organisation, marquée et rythmée par les campagnes électorales qui deviennent la question essentielle, et de plus en plus, particulièrement et d'abord dans les syndicats, se développe l'idée qu'un affrontement violent c'est dangereux parce que ça pourrait foutre en l'air la formidable organisation. Et que dans ces conditions, il faut éviter de faire des grèves par exemple trop souvent, et il ne faut en faire qu'à bon escient, c'est comme ça qu'on l'exprime, et qui pourrait être contre l'idée qu'il ne faut faire des grèves qu'à bon escient et non pas des grèves pour le plaisir de faire des grèves, c'est vrai. Pour éviter de dépenser la caisse des syndicats et de ne plus l'avoir ensuite. Et il s'agit de sommes pour l'époque énormes. Pas, évidemment, qui pâlissent à côté de ce que peut représenter la caisse des syndicats américains aujourd'hui, bien entendu, mais qui néanmoins, pour l'époque, étaient énormes et de beaucoup en avance sur tout ce que possédait le mouvement ouvrier européen, en particulier les anarcho-syndicalistes français qui ont fondé la CGT et qui, eux, n'avaient jamais un rond. Ce qui ne nous empêchait pas d'ailleurs d'organiser des grèves générales comme celle de 1910, qui n'était pas n'importe quoi. Et c'est d'ailleurs pour cela que certains d'entre eux ont pu se retrouver dans l'Internationale communiste en 1919, comme Rosmer, ou comme Griffel, ou même pour un temps comme Monat. Peu à peu, donc, l'organisation devient le but. On repousse encore la tentative de Bernstein, l'ancien dirigeant du social-démocrate et le plus proche d'Engels pendant les dernières années de sa vie, certainement, mais qui à ce moment retourne à son passé de petit bourgeois et entreprend, déclare qu'il faut réviser le marxisme, et lui au moins il a l'avantage de le déclarer honnêtement, c'est-à-dire qu'il va jusqu'au bout. Il déclare par exemple Vous pouvez lire le livre que Rosa Luxembourg a écrit contre lui, Réforme ou Révolution. Il explique que Marx s'est trompé en prévoyant la catastrophe du capitalisme et sa tendance à l'effondrement. Et ça, c'est intéressant si on pense que c'est précisément l'un des points de discussion entre les fablistes et nous à l'heure actuelle, puisque, comme vous le savez, la revue Quatrième Internationale a critiqué la vérité pour avoir prétendu que Marx avait un tel pronostic d'effondrement. Il explique que toute une série de choses nouvelles, telles que le crédit, telles que les sociétés par action, telles que l'intervention de l'État, ont créé des conditions nouvelles où il n'y aura plus de crise. Effectivement, il y a eu 20 ans sans crise, juste avant l'époque du passage à l'impérialisme, pour des raisons que d'ailleurs Rosa Luxembourg analyse parfaitement dans ce livre, et que par conséquent, il faut conclure un accord durable avec des éléments bourgeois de gauche pour réaliser un programme de réforme. C'est la seule chose sérieuse dont on puisse parler, alors que le but final, bon, on peut bien lui donner un coup de chapeau, la révolution, ça ne le gêne pas, mais il n'en voit pas l'utilité, et qu'il faut beaucoup plutôt s'orienter vers une pratique systématique de réforme. Le parti repoussera les idées de Bernstein, qui d'ailleurs, par parenthèse, avait aussi rejeté avec éclat le matérialisme dialectique, et ça n'est pas un hasard, chaque révision profonde du marxisme porte cette question entre autres en son centre. Le parti, au congrès de Dresde en 1903, condamne Bernstein et les révisionnistes, affirme qu'il n'est pas question de remplacer la politique. Survient la révolution russe de 1905, qui va porter au plus haut niveau, pousser à gauche de nouveau toutes sortes d'éléments comme Kautsky, qui était entre le centre et la gauche pendant la période précédente, on peut dire, comme Kautsky, qui va à ce moment de nouveau développer des vues absolument révolutionnaires, et en particulier se rapprocher même de la théorie de la révolution permanente et que Rosa Luxembourg défendait de son côté dans sa revue polonaise. Mais au même moment, les syndicats s'engagent une discussion à propos de la grève politique, de la grève de masse politique, que la révolution de 1905 en Russie avait mis au premier plan avec la grève générale d'octobre 1905, qui avait abouti entre autres proclamation par le tsar d'un manifeste de réforme dans un sens libéral et surtout à la formation du soviet de Petrograd, du premier conseil des députés ouvriers qui se fonde à ce moment et qui sera présidé rapidement par Trotsky. La discussion s'engage sur le rôle de la grève politique de masse. Rosa Luxembourg écrit à cette occasion sa fameuse brochure que je vous conseille vivement de lire si vous ne l'avez pas fait. Cependant que les dirigeants des syndicats Legion, un homme dont il faut retenir le nom parce qu'on en parlera plusieurs fois dans la suite, Legion dit « la grève générale, c'est l'absurdité générale ». La discussion, néanmoins, à ce moment, aboutit au congrès d'Iéna au fait que le congrès adopte le principe de la possibilité d'une grève générale politique dans certaines circonstances. Puis le reflux vient, et l'année suivante, au congrès de Mannheim en 1906, il se conclut un compromis entre les éléments dirigeants des syndicats et ceux du parti, à savoir qu'en cas de décision importante à prendre, on devra se consulter avant toute décision, ce qui revient en fait à interdire au parti de prendre une position révolutionnaire si ça ne convient pas aux bureaucrates dirigeants de la centrale syndicale, c'est-à-dire à une capitulation de Bebel devant les Guiennes. De plus en plus, l'appareil du parti, un appareil énorme de fonctionnaires, au départ des éléments d'un dévouement extraordinaire. Il ne faut pas toujours voir les bureaucrates comme des gens qui se foutent de la gueule des travailleurs, comme c'est d'ailleurs souvent le cas aujourd'hui. Mais au départ, c'était des hommes qui touchaient effectivement le salaire d'un ouvrier et qui étaient mobilisés par le parti jour et nuit. C'était pas drôle d'être permanent. On allait en prison, etc. Et l'appareil, néanmoins, maintenant se sépare de plus en plus et s'installe dans sa routine quotidienne, abandonnant toute espèce d'autre perspective que celle de conquérir de nouveaux sièges au prochain Parlement. Dans les années un peu plus tard, je ne sais plus la date exacte, un homme qui s'appelle Gustave Nosk et qui est député au Parlement répondra aux représentants du gouvernement du Kaiser qui accusent les sociaux-démocrates d'être des traîtres à l'Allemagne, dans un discours fameux dans lequel il dit « Nous ne sommes pas des vagabonds sans patrie et nous saurions, s'il le faut, si l'Allemagne était menacée, la défendre. » Néanmoins, l'Internationale et le parti lui-même adopteront cependant au congrès de Stuttgart en 1907, puis au congrès de Bâle en 1911 ou 12, des positions internationalistes, une résolution qui est amendée par une commission où participent Lénine et Rosa Luxembourg et qui affirme qu'en cas de, le capitalisme provoquerait la guerre pour ses intérêts de bandits et contre les peuples, la social-démocratie devrait s'y opposer par tous ses moyens et si malgré tout la guerre passait, utiliser la crise que ne manquerait pas de provoquer économique et politique, que ne manquerait pas de provoquer la guerre pour hâter la chute du régime capitaliste, c'est la fameuse résolution de Bâle que les internationalistes opposeront pendant la guerre aux majoritaires des différents partis socialistes, que Lénine en particulier répétera continuellement, et aussi la gauche allemande, c'est le dernier acte en quelque sorte politique de salut au marxisme et au passé de l'organisation, et il ne faut pas croire que les gens qui signaient cela étaient bien décidés à le trahir à la prochaine occasion et savaient qu'ils allaient le trahir, ils n'en savaient rien du tout, pas plus que comme l'a fait remarquer Trotsky, si Staline en 1923 avait prévu que 13 ans plus tard il serait amené à exterminer tous les compagnons de Lénine et avec lui des centaines de milliers de communistes, lui-même, dit Trotsky, aurait sans doute reculé d'épouvante. Comme il était Staline, il n'a rigoureusement rien prévu, il n'a jamais compris ce qu'il était en train de faire jusqu'au moment où l'histoire l'a porté dans la position qu'il a occupée, ce qui d'ailleurs ne l'excuse nullement de ses crimes, bien entendu. Mais il faut bien comprendre ça. Si vous imaginez que les gens qui étaient réunis à Bâle en 1912, que la majorité de la social-démocratie allemande avait décidé, oui, on vote ça pour leur faire plaisir, je me demande à qui d'ailleurs, parce que c'était le parti principal, mais de toute façon on vote ça pour leur faire plaisir, on va le trahir à la prochaine occasion, ce n'est pas vrai, ils n'avaient rien prévu du tout, rien, 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 ils ne le pouvaient pas. Le phénomène objectif qui s'emparait d'eux, qui transformait la nature de classe de l'appareil du parti, était masqué par le fait que ce parti était encore un parti d'opposition qui menait de grands combats de classe et n'était absolument pas ressenti consciemment ni par eux ni par personne. Ce qu'ils voyaient le plus clairement, c'était la gauche allemande qui avait été éliminée de toutes les positions dirigeantes qu'ils occupaient déjà depuis plusieurs années. Franz Mehring avait dirigé un certain temps un quotidien régional du parti à Leipzig et puis avait été viré. Rosa Luxembourg n'avait plus tellement d'organes où elle pouvait s'exprimer, même plus la Neue Zeit de Kautsky après leur rupture, mais assez tardivement d'ailleurs, 1907 ou 1908 il me semble, vous trouverez dans le livre de Brouwer un esquisse historique de cette période, et puis survient le 4 août 1914, l'impérialisme, la première guerre impérialiste commence, et les 111 députés sociaux-démocrates au Reichstag votent les crédits de guerre. Liebknecht lui-même les vote, il avait voté contre dans le groupe parlementaire, mais respectait encore la discipline du groupe pour trois, il devait la respecter encore les trois mois suivants. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est ce qui va être analysé, mais par la suite seulement. Trotsky, lui, avait été probablement plus clairvoyant. Tiens, je crois qu'il y a la révolution allemande là. Ici. Dans cet ouvrage, qui est d'ailleurs absolument prophétique de Trotsky à tous égards, qui s'appelle « Bilan et perspectives au lendemain de la révolution de 1905 », que vous trouverez dans le livre 1905, il avait écrit « Les partis socialistes européens, spécialement le plus grand d'entre eux, la social-démocratie allemande, ont développé leur conservatisme dans la proportion même où les grandes masses ont embrassé le socialisme, et cela d'autant plus que ces masses sont devenues plus organisées et plus disciplinées. Par suite, la social-démocratie allemande, organisation qui embrasse l'expérience politique du prolétariat, peut à un certain moment devenir un obstacle direct au développement du conflit ouvert entre les ouvriers et la réaction bourgeoise. » Ça n'allait pas jusqu'au bout, mais c'est encore ce qui a été écrit de plus clair, en tout cas par un russe, sur cette question. « La gauche allemande a son grand défaut qui est de ne pas être organisée. Elle est une tendance, un courant et non même pas une tendance. Elle est beaucoup plus méfiante à l'égard de la direction du parti, dont elle sait qu'il faut attendre des choses extrêmement fâcheuses en cas de crise aiguë, mais elle n'a pas été capable de s'organiser en fractions cohérentes comme les bolcheviques, de telle sorte que Lénine, lui, qui est tout à fait surpris, Lénine qui encore quelques années auparavant, ou même sans doute quelques mois, considérait Kautsky comme un marxiste et comme même, d'une certaine manière, le plus important représentant théorique du marxiste à ce moment-là, il l'a dit, c'est d'ailleurs pour cela qu'ensuite il s'acharne, il comprend d'ailleurs la nécessité de s'acharner contre Kautsky, parce que si lui pensait ça, ça veut dire que beaucoup d'autres, des dizaines de milliers de cadres ouvriers européens l'avaient pensé, et qu'il fallait donc exposer ce qu'était devenu réellement Kautsky, qu'il n'avait pas toujours été non plus. Lénine accueille, comme vous le savez, le télégramme annonçant le vote des crédits de guerre comme un faux de l'état-major allemand au premier moment. Après quoi, d'ailleurs, évidemment, il se convainc que ce n'est pas un faux et il commence alors, à sa manière, proprement léniniste, la révision de ce qu'il pensait lui-même, et il va jusqu'au bout et il écrira très bientôt « La deuxième internationale est morte, tuée par l'opportunisme et le social-patriotisme, vive la troisième internationale ». C'est-à-dire que lui tire la conclusion jusqu'au bout tout de suite, ce que ne fait à ce moment-là personne. Il analyse alors la base sociale de cette transformation, il montre comment le capitalisme passait au stade impérialiste, cette analyse commençait à se faire dans le mouvement ouvrier international depuis un certain nombre d'années, mais c'est lui qui la pousse jusqu'au bout, et comment le capitalisme passait au stade impérialiste, la domination du marché mondial et en particulier des colonies par un petit nombre de grandes puissances impérialistes leur a permis de réaliser des super profits énormes et par là même d'en recéder une partie à une couche supérieure, une aristocratie ouvrière de techniciens, d'ouvriers hautement qualifiés, de professeurs, d'avocats, etc. et que la base sociale de la dégénérescence de la direction social-démocrate, c'est cette aristocratie ouvrière dont les privilèges sont liés au fait que leur impérialisme, leur propre impérialisme, dans la guerre de bandits avec les autres pour le partage du pillage des colonies, a une part suffisamment grande pour pouvoir leur en donner plus. Il analyse cette base sociale et il montre, je ne vous ferai pas les citations pour gagner du temps, dans ses ouvrages de l'époque, La faillite de la deuxième internationale, Le socialisme et la guerre, etc., vous les trouverez rassemblés tous dans le livre Contre le courant, il montre comment, sur cette base, l'opportunisme avait préparé cette situation. Autrefois, on pouvait bien dire qu'il était une tendance légitime, bien qu'il fallait la combattre, du mouvement ouvrier, qui pouvait y conserver sa place, l'opportunisme. Mais maintenant, l'opportunisme s'est transformé en social-patriotisme, qui est la trahison ouverte du mouvement ouvrier, qui est liée organiquement avec la bourgeoisie. C'est pourquoi désormais le rassemblement du mouvement de classe ne pourra plus se faire que par la scission avec l'appareil social-patriote, qui est l'opportunisme achevé, mais en même temps devenu autre chose, expression des intérêts d'une couche sociale déterminée. Ce qui n'empêche que l'internationale communiste, quand elle se fondera, que d'abord les bolcheviques et la tendance internationale qui seront d'accord avec eux, et il faudrait d'ailleurs dire plutôt ici Lénine que les bolcheviques, parce que tous les bolcheviques étaient loin d'être d'accord avec lui, c'est-à-dire la gauche de Zimmerwald, participera néanmoins aux conférences de Zimmerwald et de Kental, où se rassembleront toutes les tendances opposées à la guerre, allant des marxistes conséquents jusqu'aux pacifistes petits bourgeois comme les Suisses ou aux simples neutralistes comme les Italiens, qu'ils y participeront tout en organisant à l'intérieur de ce mouvement leur fraction, la gauche de Zimmerwald, la gauche internationale qui prépare la troisième internationale, mais qui en attendant participe à l'organisation où sont rassemblés y compris les centristes et y compris même les pacifistes petits bourgeois. Les seuls qui n'y sont pas, ce sont les sociopatriotes et ceux qui ne veulent pas rompre avec eux, c'est-à-dire le centre de Kautsky qui explique que l'internationale était un instrument uniquement pour le temps de paix et par conséquent elle devra se reconstituer quand la paix reviendra avec tout le monde dedans. Il faudra pardonner les injures et les erreurs parce que Kautsky occupe une position d'hostilité à la guerre mais de maintien de la prétendue unité du parti. La gauche allemande est obligée d'ailleurs, au départ, faute d'organisation, de suivre une ligne analogue. C'est seulement après la victoire de la révolution russe que l'Internationale communiste sera proclamée, et dans l'article 1 de ses statuts, elle dira qu'elle rassemble, non pas, vous en trouverez le texte exact dans le même article de la vérité ou dans le livre sur ses résolutions et des quatre premiers congrès, les statuts ne diront pas du tout adhère à l'Internationale communiste ceux qui sont d'accord avec l'intégralité du marxisme révolutionnaire, ceux qui sont pour le défaitisme révolutionnaire comme Lénine, ceux qui sont pour la révolution permanente, etc. Pas du tout. Elle dit simplement qu'elle unit tous les travailleurs révolutionnaires qui veulent combattre pour le pouvoir des soviets, ce qui est à l'heure actuelle, puisque les soviets sont là et que les masses se tournent impétueusement dans toute l'Europe vers les soviets, tout en continuant d'ailleurs à rester dans les vieux partis. C'est ça la contradiction. Contradiction qui s'exprimera de la manière la plus claire lorsque le gouvernement social-démocrate, qui est un gouvernement bourgeois réactionnaire, c'est un gouvernement ouvrier du premier des quatre types qu'envisageait l'Internationale communiste 3 ans plus tard en 1922, c'est-à-dire que c'est en même temps un gouvernement bourgeois réactionnaire. C'est le gouvernement qui sauve la bourgeoisie en Allemagne, le gouvernement des assassins de Karl et de Rosa, celui de Nosk et Scheidemann. Nosk avait bien démontré maintenant qu'il n'était pas un vagabond sans patrie, comme il l'avait annoncé quelques années plus tôt au Reichstag. Eh bien, ce gouvernement comprendra beaucoup mieux que tout le monde, et en particulier y compris les bolcheviques, que les masses vont faire passer une fois de plus leurs aspirations révolutionnaires par la social-démocratie majoritaire. Le centre a scissionné à ce moment-là sous forme du Parti des indépendants et le Parti communiste s'est constitué de son côté, et qu'il constituera ce premier gouvernement, mais qu'il ira, ce gouvernement qui est un gouvernement bourgeois autant qu'on peut l'être, un gouvernement de salut du capital, le premier gouvernement de la République de Weimar, va aller se faire entériner par le Congrès des conseils ouvriers allemands et s'appellera Conseil des commissaires du peuple. Et Noss sera commissaire du peuple et Scheidemann aussi, pendant que les communistes allemands, eux, tournent le dos au Conseil parce qu'ils sont dominés par la social-démocratie. Tout cela, vous le lirez dans le livre de Brouet, et tout cela, ce sont des enseignements qui sont incontestablement d'une actualité brûlante. Soyez sûrs que s'il le faut, M. Segui sera le commissaire du peuple, ce qu'il faudra pour sauver la bourgeoisie. Et que si nous ne comprenons pas ce processus et ces rapports entre les masses et leur organisation historique et leur direction, eh bien, si nous avions le malheur de tourner le dos aux syndicats comme l'ont fait le Parti communiste allemand à son premier congrès, si nous avions le malheur d'oublier un certain nombre de ces leçons, eh bien, l'histoire nous traiterait aussi mal qu'elle a d'ailleurs traité les communistes allemands à cette époque, qui pourtant avaient une organisation, ont eu très rapidement une organisation beaucoup plus puissante, grâce avant tout à la révolution d'octobre et au fait qu'ils étaient le parti de cette révolution qui était là sous les yeux des masses. Mais en même temps que les masses étaient pour la révolution d'octobre, en même temps elles se tournaient vers le parti traditionnel, et elles n'en venaient à sa scission que tout à fait à l'extrémité après la fin de l'expérience et pas au début. Cela, nous aurons l'occasion d'en reparler. Je conclus cet exposé qui a peut-être été historiquement trop long, mais ça c'est à vous d'en juger. Moi je pense que si on n'a pas une certaine perspective de l'histoire du mouvement ouvrier avant nous, les conclusions théoriques toutes crues, ça ne veut plus rien dire, c'est vraiment des dogmes. Ce qui avait été la grande difficulté, c'est qu'il y a d'une part et toujours une tendance réformiste du mouvement ouvrier, comme il y en avait, comme Marx pouvait en avoir une en face de lui en 1846 avec Proudhon ou d'autres, et comme il y en avait dans la première internationale, et comme il y en a eu à chaque étape, c'est-à-dire une tendance qui exprime bien entendu la pression de l'idéologie bourgeoise sur le mouvement de classe du prolétariat, mais qui est une tendance légitime, comme on le disait et comme on le dit encore, une tendance qui a ses racines dans l'histoire même du mouvement ouvrier, qui est une tendance de classe qui se trompe. Après tout, la masse des ouvriers américains ne sont pas un par un, ils appartiennent sans doute, la masse des syndiqués, beaucoup appartiennent à l'aristocratie ouvrière, pas tous, loin de là aujourd'hui, mais même appartiendraient-ils tous, comme c'était le cas des syndicats de l'ancienne Fédération américaine du travail jusqu'en jusqu'à l'unité syndicale, à l'aristocratie ouvrière, c'était quand même un mouvement de classe, et Lénine expliquait dans La maladie infantile du communisme qu'il fallait aller dans ces syndicats-là et non pas faire des beaux syndicats rouges tout propres à côté. Et c'était pourtant les syndicats de bonne perce par rapport auxquels Mini est un homme de gauche par rapport à ce que pouvait être bonne perce. Ça me donnera une idée de ce que ça pouvait être. C'était des syndicats réservés aux ouvriers hautement qualifiés où personne d'autre ne pouvait rentrer. Des syndicats qui s'appelaient d'ailleurs pas syndicats mais fraternité où on payait une cotisation très élevée que seul un ouvrier de l'aristocratie ouvrière pouvait payer, un homme qui avait un métier de professionnel et qui défendait leurs intérêts contre les autres ouvriers. Et pourtant, comme il n'y avait rien d'autre, c'était ça. Eh bien, il y a une tendance historique du réformisme, il y a un appareil bourgeois qui est l'expression de l'ennemi. Et bien sûr, ça s'exprime souvent à travers les mêmes hommes, à travers... il n'y a pas une barrière nette et tranchée, parce que si cette barrière existait, ça veut dire que la scission entre le mouvement de classe et l'appareil bourgeois serait réalisée. Et il est évident qu'à ce moment-là, y compris les rapports... La contradiction est aujourd'hui la suivante. C'est que les réformistes, depuis déjà longtemps, ont le plus grand mal à être simplement des réformistes du mouvement ouvrier. C'est que le capitalisme ne permet plus de réforme et que même il s'attaque à toutes les réformes passées. Vous avez le cas le plus typique dans le cas de la majorité incontestablement réformiste de la Fédération de l'Éducation nationale, dont les principaux éléments sont membres du Parti socialiste, en plus... adversaires des Mitterrand, ils sont bien obligés de l'être, puisque Mitterrand marche avec Unité et Action et remplit les Unité et Action de représentants membres du Parti Socialiste. À l'heure actuelle, il est clair que les dirigeants de la FEN ne peuvent pas regarder ça d'un œil satisfait. Alors la question est la suivante. Leur situation de réformiste devient de plus en plus, c'est-à-dire de gens qui espèrent trouver une solution par un compromis réalisé avec le gouvernement bourgeois, qui l'ont fait, une solution naturellement pas durable, mais qui l'ont quand même fait dans un certain nombre de cas du passé et qui espèrent le faire encore, elles deviennent de plus en plus intenables. Et qu'ils ont à choisir entre leurs liens idéologiques et moraux et traditionnels avec le régime bourgeois et avec l'ordre bourgeois, et leur situation de dirigeant ouvrier. Voilà la direction de la FN, placée devant les staliniens et la bourgeoisie par l'intermédiaire de Mitterrand et de la CFDT, qui prépare la scission de la FN de manière ouverte avec la manifestation qui a lieu dans quelques jours des quatre syndicats et avec un certain nombre d'opérations ouvertement et de plus en plus ouvertement et délibérément scissionnistes où les quatre syndicats dirigés par les Stahl agissent en fraction, défiant les décisions de la FN, s'en foutant complètement et la combattant ouvertement. Voilà la direction qui trouve ça fort triste, bien sûr, qui porte certains coups au cours du Congrès, mais qui en même temps se garde bien d'aller jusqu'au bout. Maranger un jour dit, finalement tout cela c'est la question du gouvernement, mais il ne peut pas dire quel est le gouvernement qui devrait prendre sa place, ça il ne peut pas, sinon il n'est plus Maranger réformiste. Et d'un autre côté, la situation est telle que s'il veut rester Maranger secrétaire d'un syndicat de 500 et quelques mille membres, c'est-à-dire un homme beaucoup plus important finalement qu'un ministre en France, un homme qui est l'un des hommes les plus importants de la politique française, c'est évident. Cet homme dirige le plus puissant syndicat qui existe dans ce pays, un syndicat qui est le seul à regrouper 75 ou 80% des syndiqués, des travailleurs de la corporation, alors qu'il n'y a pas 20%, 15% de syndiqués entre tous les syndicats dans le reste. Il aimerait bien rester. Et alors le rester, c'était faire des compromis avec les Stahl, c'était faire des compromis avec ceci et cela, ça devient de plus en plus difficile, ça devient presque impossible. Alors il y a les trotskistes qui eux ouvrent une autre perspective, mais ça c'est pas possible, pour lui c'est changer toute sa vie, là, jamais. C'est pas qu'ils comprennent pas, faut pas croire, c'est pas une question, c'est pas un imbécile intellectuellement, y compris c'est dit, on voit bien ce qu'on veut, c'est dit encore mieux d'ailleurs que Maranger, on peut être tranquille. Mais bon... Alors la contradiction, je parle le destin personnel de Maranger, je ne vais pas essayer de l'imaginer et je m'en moque, ce que fera un homme. Mais quand on reprend alors ce que dit notre programme, à savoir que dans certaines circonstances, les dirigeants petits bourgeois peuvent être obligés d'aller beaucoup plus loin qu'ils ne veulent et même de rompre avec la bourgeoisie, eh bien c'est de ça qu'il s'agit. C'est cette contradiction où les dirigeants petits bourgeois se trouvent placés entre un appareil bourgeois incontestable, mais beaucoup moins intégré à l'état, beaucoup moins intégré dans la bourgeoisie dans le cas de la FEM que ça peut être le cas dans tel syndicat américain, mais néanmoins finalement le problème est le même. Mais cet appareil, il n'y a plus de place pour lui. Mais même aux États-Unis maintenant, ce sont les privilèges de l'aristocratie ouvrière qui vont être mis en cause et qui le sont. Ça vient beaucoup plus tard, mais ça vient aussi maintenant aux États-Unis, c'est un des traits centraux de la situation historique où nous sommes. Bien sûr, mesuré en semaines ou en mois, c'est absurde. Mais néanmoins, c'est maintenant la situation nouvelle. Alors voilà, c'est cette contradiction-là, c'est cette nature de classe du mouvement ouvrier, s'opposant, contredisant la nature bourgeoise de l'appareil et la tendance pro-bourgeoise qu'est le réformisme, qui a pourtant toujours existé dans le mouvement ouvrier, mais qui maintenant, dans les conditions de l'époque de la Révolution, dans les conditions de la période de l'imminence de la Révolution, voit la base politique sur laquelle elle a toujours vécu se dissoudre peu à peu sous elle et se trouve à être placée devant le choix ou de rester dirigeant d'une organisation ouvrière ou tout simplement militant du mouvement ouvrier. C'est même plus une question de privilège. Aux États-Unis, ça peut l'être, mais ce que gagne Maranger, il n'a pas besoin de ça pour le gagner. Il peut être secrétaire de la FEN, il peut être prof, il peut être n'importe quoi, c'est pas le problème. Le problème, c'est le problème de la situation politique. Il faut choisir. Alors, le choix, il le recule, il le recule, il le recule. Et finalement, le choix qu'ils font, n'oublions pas que ça dépend de nous, dans une mesure qui ne peut pas être évaluée à l'avance, dans notre capacité à exprimer non pas les besoins de Maranger et de sa direction, mais les besoins des 525 000 ou je ne sais pas combien de syndiqués de la FEN qui, avec une confusion plus ou moins grande, cherchent eux une issue qui, même d'ailleurs pour ceux qui votent pour Unité et Action, n'est pas celle de la scission de la FEN et de la destruction du mouvement syndical ouvrier que veut le stalinisme pour sauver l'ordre bourgeois. Les mêmes contradictions, bien entendu, s'expriment chez les staliniens, comme on l'a vu au moment du vote pour les libertés démocratiques au congrès de la FEN, où ils ont perdu une centaine de voix. Les mêmes contradictions s'expriment partout. J'ai pris cet exemple parce que c'est celui que nous connaissons le mieux, mais Force ouvrière et l'histoire de la vie, c'est pas différent. Bergeron, si droitier soit-il, si réformiste soit-il, et il l'est, Dieu sait, non, il ne faut pas dire Dieu, puisque c'est l'habit qui est parti à la CFDT, mais enfin, nous le savons en tout cas, et l'histoire le sait, ben, il veut être dirigeant d'une centrale ouvrière. Alors ça devient de plus en plus difficile d'être à la fois réformiste et dirigeant d'une centrale ouvrière, mais il n'a pas accepté l'habit, non pas parce qu'il n'est pas pour l'autogestion, mais parce qu'il voulait rester dans le cadre de l'organisation de classe, c'est incontestable. Maintenant, jusqu'où ça va ? Ah ça, alors l'histoire le dira, mais là encore, ça dépend de notre capacité à comprendre que ce n'est pas une trahison de soutenir Bergeron contre la vie, et que c'est au contraire la défense des intérêts du mouvement historique du prolétariat, à condition bien entendu que nous conservions la totalité de notre indépendance politique. L'article 1 des statuts de lycée était fait pour ouvrir les portes de l'international aux anarcho-syndicalistes, aux syndicalistes révolutionnaires français et aux anarchistes espagnols en particulier. Et si les anarchistes espagnols n'y sont pas entrés, c'est parce qu'eux ne l'ont pas voulu. Mais cet article 1 ne disait évidemment pas que Lénine et Trotsky allaient cesser de défendre le matérialisme dialectique pour faire plaisir aux autres. Ça, non. Il n'était pas question de cela, et bien entendu, les deux bouts de ce bâton sont pour nous inséparables. Bon, ben, j'ai été long comme toujours, mais bon, enfin, ça fait partie des critiques que j'espère vous me ferez. Alors j'ai encore deux choses à ajouter que je ne dois pas oublier. La première, je ne sais pas où elle est passée, ben, je vais essayer de la retrouver. Ben, oui. La première, c'est l'histoire de la brochure. Qui ici à la brochure de Juste. Alors, mais c'est qui ne l'a pas ? Ça va pas, parce que, alors, il y en a qui à la fois ne l'ont et ne l'ont pas. Bon, je n'éclaircirai pas ce douloureux mystère qui n'est pas dialectique, je vous signale. C'est pas ça la dialectique, ça, non. Avoir et ne pas avoir à la fois, autrement dit, ne lever les mains aucune des deux fois, c'est pas ça. Non, en fait, tant pis. En tout cas, il est important qu'ils s'en vendent davantage. Je signale en particulier aux étudiants membres de l'AER qui seraient dans cette salle que l'AER s'est distingué en achetant particulièrement peu et que c'est regrettable, mais qu'après tout, rien ne les empêche ce soir notamment, s'ils trouvent cette brochure valable et s'ils pensent que dans l'AER, tout le monde ne sait pas tout sur le gouvernement ouvrier, ce qui est au moins probable, d'en prendre une, ça ne coûte que 3 francs. Et j'aimerais bien, de façon très sérieuse, je souhaiterais, dans la mesure du possible, que chacun d'entre vous, même s'il l'a, et plus fortement s'il ne l'a pas, en prenne ce soir une, pour la vendre à un autre, ce qui est, à mon avis, je crois, pas très difficile à réaliser. Si vous pensez que ça ne l'est pas, j'aimerais que vous écriviez pourquoi dans le bulletin de l'école qui est fait pour ça. Savoir que cette brochure ne va pas, ou qu'elle va, mais qu'il y a un autre facteur qui ne va pas, ou je ne sais quoi, parce que c'est seulement comme ça qu'on peut savoir quel genre de brochure il faut sortir ensuite ou ne pas sortir. Et d'ailleurs, j'ajoute qu'il est également souhaitable que vous écriviez dans le bulletin si vous avez des choses à dire sur cette brochure, autre que celle-là, y compris qui ne serait pas des critiques, mais qui serait simplement un article dessus. Le bulletin, il n'y en a pas eu d'autre cette fois-ci parce que je n'ai pas réussi à le sortir. Une fois de plus, le même facteur existe. Je ne peux pas tout faire et il serait souhaitable. La seule solution dans cette voie, bon, bien sûr, la semaine prochaine, j'en sortirai un, etc. Ceci dit, si la chose doit se régulariser et se développer davantage, la seule solution serait que des camarades viennent au bureau pour collaborer à sa rédaction, à sa préparation. Parce que si ça tombe sur moi tout seul pour les 3/4, il est clair qu'avec d'autre part le numéro de la vérité qui est en préparation et quelques autres petites choses, comme par exemple un CEM, je vous invite à venir m'entendre à Bruxelles le 5 mars où je parlerai de la question des forces productives. Ça veut dire qu'il faut quand même que je le prépare un petit peu. Alors, c'est très difficile, j'y peux rien. Ceci dit, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, c'est quand même curieux, si vous avez lu les textes qui sont dans le bulletin numéro 9 et dans le bulletin précédent, que vous n'ayez rien à dire dessus et que vous les compreniez, je n'y crois pas. Alors, j'aimerais qu'ils viennent déjà à la tribune dire « j'ai rien compris à ça », comme ça, au moins, je serais sûr que vous l'avez lu. Et j'aimerais au moins, sinon, qu'ils parviennent des questions écrites, comme il y avait un camarade l'autre jour qui m'avait dit que Marx disait je sais pas quoi, alors que je pensais qu'il disait, ou non, Engels, alors que je pensais qu'il disait autre chose, qu'il le mette par écrit, et que ça vienne. Ce genre de questions, ça, j'y réponds plus facilement dans le bulletin, parce que c'est beaucoup plus court que la réponse que vous avez sur l'environnement, que je n'ai pas pu faire en moins de 10 pages, parce que je ne vais pas comment m'en tirer autrement. Bon, alors j'aimerais donc que les camarades qui s'en vont me fassent le plaisir de prendre cette brochure, ça serait gentil. Et également le bulletin s'ils ne l'ont pas. Une dernière chose, je demanderai aux camarades responsables par cercle ou sinon un par cercle de rester pour un quart d'heure après la fin de la réunion. Et maintenant, vas-y. Sur l'histoire du Labour Party, je suis vraiment incapable de répondre parce qu'effectivement, je vais vous avouer à ma honte que c'est le camarade en parlant qui m'a fait prendre conscience qu'effectivement, le Labour Party n'était pas membre de l'international avant la guerre, j'y avais jamais réfléchi. L'essentiel me paraît bon, donc je ne dirai pas quand il y a adhéré parce que je n'en sais rien. Le Labour Party, contrairement au Parti du continent, ne s'est jamais constitué sur la base du marxisme, mais au contraire sur la base d'un conglomérat de tendances réformistes dont la doctrine officielle était donnée par la tendance dite fabienne, fondée par un certain nombre d'intellectuels à laquelle appartenait entre autres, il me semble, George Bernard Shaw, et d'autres de son espèce, Wells probablement, toute une série d'intellectuels réformistes qui, dont la théorie était qu'il fallait pratiquer vis-à-vis de la bourgeoisie la tactique de Fabius Cunctator tel que le rapporte l'Antiquité, dont le grand génie était d'éviter toujours le combat avec Hannibal. Parce que quand il ne pouvait pas l'éviter, les Romains prenaient une pile. Alors, sa tactique consistait à temporiser, c'est ce que veut dire Cunctator. Il ne sauvait finalement pas grand-chose, puisque finalement, les Romains, en ayant eu marre, l'ont remplacé par un autre qui n'a pas fui le combat, et ils ont pris une dérouillée fameuse à Cannes. Enfin, bon, le grand malheur pour nous en particulier étant que dans ce cas, Hannibal, au lieu de marcher sur Rome, s'est dirigé vers le sud où il s'est endormi dans les délices de Capoue, comme vous savez. Et le résultat, c'est que nous avons appris le latin, alors que sinon nous aurions appris le carthaginois. Mais enfin, ça rend du cœur. Enfin, ce n'est pas tout à fait sûr, et je reconnais que ce n'est pas absolument conforme au marxisme, mais vous savez, l'histoire, c'est compliqué. Et si vous lisez d'ailleurs les articles de politique extérieure de Marx des années 50 dans le New York Tribune, vous direz qu'il n'était vraiment pas marxiste cet homme-là, parce qu'il ne rattache pas toujours à la base économique, il commet toutes sortes de crimes de cette espèce, autrement dit, il savait que ce n'était pas si simple. Bon. Enfin, de toute façon, donc, le Labour Party s'était fondé sur la base des syndicats déjà réformistes et déjà dont la direction exprimait déjà les intérêts de l'aristocratie ouvrière qui s'est constituée en Angleterre, pays capitaliste le plus avancé alors, beaucoup plus tôt, au point qu'Engels et Marx lui-même ont pu l'analyser déjà dans les années 60-70. Et il s'est toujours constitué comme un parti qui n'a pas adhéré, qui n'était pas d'accord avec le prolétaire de tous les pays, unissez-vous, et qui n'a pas adhéré à l'international. Cela dit, ça ne changeait pas fondamentalement. La social-démocratie allemande, ce n'était pas simplement le parti de classe au sens où elle l'est aujourd'hui en Allemagne. C'était le parti de la révolution prolétarienne, encore en 1903, réaffirmé. Nous condamnons le révisionnisme qui renonce à la lutte pour la prise du pouvoir. Et qui, même à Gotha, si elle n'exprimait pas cela directement, parce qu'entre autres choses, légalement, ce n'était pas possible, il y avait aussi cet aspect des choses, ça n'obligeait pas à dire des sottises, mais ça ne permettait pas de dire tout ce qu'on pensait. En particulier, ils étaient tous pour la République démocratique, et ça, ils ne pouvaient pas le dire sous le Kaiser, c'était interdit. Donc la social-démocratie se considérait comme le parti, non seulement le parti du prolétariat, mais le parti de la révolution prolétarienne. La deuxième internationale était constituée sur la même base. Le Labour Party ne l'a jamais été, ce qui n'empêche que c'était le parti de classe au sens fondamental du terme, c'est-à-dire l'organisation que la classe ouvrière a construite dans son mouvement historique et dont la direction n'a jamais atteint le niveau théorique qu'elle a pu atteindre sur le continent, en Angleterre. C'est un fait, et jusqu'à très récemment, et même d'une certaine façon, on peut dire encore aujourd'hui, où l'empirisme n'a été dépassé comme méthode traditionnelle des Anglais par le socialiste labourique pour tomber dans un dogmatisme qui sépare le matérialisme dialectique comme une espèce de doctrine en soi séparée, se réduisant à un certain nombre de formules, et d'autre part son activité pratique. Donc, dans ces conditions, encore une fois, y compris le fait que la social-démocratie allemande au congrès de je ne sais plus quoi dans les années 50 ait abandonné officiellement le marxisme comme doctrine, n'a pas changé la nature de classe du Parti Socialiste comme on peut le voir tous les jours. Par contre, le Parti Socialiste français, lui, il l'avait conservé en 1946 lorsque Guy Mollet a pris la direction en obtenant la majorité sur la réaffirmation que le Parti Socialiste était un parti de classe contre Léon Blum qui voulait lui voir adopter le socialisme humaniste, ben ça n'a pas non plus changé la nature de la direction du Parti Socialiste. Il faut pas. Ça s'explique pour des raisons historiques qui sont celles du développement de la lutte des classes en Angleterre, qui n'a eu d'organisation révolutionnaire que dans la période du chartisme. Le Parti communiste anglais est resté toujours très faible. Si vous lisez Où va l'Angleterre de Trotsky, vous verrez une analyse de l'ensemble de ces problèmes. Mais ça ne change pas, encore une fois, le fond des choses. Bien sûr, après, il a pu rejoindre une internationale qui n'avait plus absolument plus la signification d'un parti mondial de classe et qui était plutôt un appendice de la Société des Nations à l'époque, sans que ça le gêne, étant donné que ça n'engageait absolument à rien, sinon à régler un certain nombre de questions diplomatiques par cet intermédiaire. Bon, alors, c'est la question de Philippe du CAO de l'équipement sur le programme de Gotha. Moi, je crois d'ailleurs qu'il y a lui-même répondu en partie. Ce qu'il faut comprendre, c'est premièrement que, effectivement, il n'y avait pas là un appareil bourgeois. Ce qu'explique longuement Lénine, c'est que le social-patriotisme, c'est pas la même chose que l'opportunisme, ou bien c'est l'opportunisme arrivé à son terme extrême, et cette fois lié directement à la bourgeoisie et organiquement. Il expliquera ensuite que ce sont les intérêts d'une couche sociale particulière, l'aristocratie ouvrière, dont le revenu est composé pour une part de leur salaire de travailleurs qualifiés et pour une part d'une fraction de la plus-value extorqué aux pays arriérés par la puissance impérialiste dont ils dépendent et dont les intérêts et les privilèges sont donc liés à cette puissance impérialiste. Lénine, d'ailleurs Engels avait expliqué la même chose déjà par rapport aux dirigeants des syndicats anglais dans les dernières années de sa vie. Où le passage à l'impérialisme s'est fait en Angleterre plutôt qu'ailleurs, évidemment, pour, du fait qu'ils étaient en tête du développement du capitalisme. Mais il n'y avait absolument pas cela dans l'organisation de Gotha, d'une part. D'autre part, cela ne veut pas dire, et de ce point de vue, ça rejoindrait entièrement notre tactique, que Marx excluait la constitution d'une fraction pour lutter pour des idées plus correctes. Simplement, il savait parfaitement que les dirigeants d'Eisenach n'avaient pas des idées plus claires dans leur ensemble que les dirigeants du parti de La Salle, que la fusion avait été réalisée précipitamment, précisément par l'homme qui était le plus proche de lui, d'une certaine façon, qui avait passé une partie de l'émigration en Angleterre avec lui et avait été son élève, le père Liebknecht, profitant d'ailleurs que Bebel était en prison à ce moment-là pour faire ça très vite, pour que ça soit fait et qu'on n'en parle plus. L'idée de Liebknecht étant qu'il fallait à tout prix rassembler les morceaux qui n'avaient plus aucune raison et qu'il fallait accepter n'importe quoi théoriquement, ce qui était sa faiblesse très grande. Il n'a jamais compris grand-chose à la théorie. Le père Liebknecht était un agitateur extraordinaire, un constructeur d'organisation, le soldat de la révolution, comme on l'appelait dans le parti, mais ce n'était pas un théoricien. Alors, d'ailleurs, 15 ans plus tard, lorsque Engels a voulu que soit publié dans le parti la critique du programme de Gotha de Marx, qui à ce moment était resté connu seulement de quelques cadres, il a dû le faire contre Liebknecht. L'histoire est racontée dans les préfaces de sa correspondance avec Kautsky. Et finalement, il a demandé à Kautsky de le publier dans sa revue, ce qui a fait Kautsky a failli se faire condamner par la direction à ce sujet, mais Bebel a écrasé l'histoire parce qu'il comprenait très bien qu'Engels n'entendrait pas malice sur cette affaire d'un texte de Marx. On a toutefois coupé quelques mots qui étaient désagréables ou qui risquaient d'entraîner la répression en Allemagne, en particulier le fameux passage où Marx écrit que, à propos de la liberté religieuse, que les citoyens doivent avoir la possibilité de satisfaire leurs besoins religieux comme leurs besoins corporels sans que la police y mette son nez, ce qui est assez expressif et exprimait parfaitement ses sentiments d'ailleurs. Mais malheureusement, ça a été coupé dans la... Enfin, Kautsky l'a coupé parce qu'il a craint que la police allemande, effectivement, n'y mette son nez, n'est-ce pas, et ne parle d'insulte à la religion, je ne sais quoi. Bon, Marx, que pouvait-il faire? Il savait parfaitement, encore une fois, que les dirigeants d'Eisenach, à ce moment-là, n'étaient pas plus solides théoriquement. C'est Bebel a lu sérieusement Marx dans les années suivantes en prison. Il venait plutôt de le lire en prison, mais il n'était pas dans le coup, il l'a lu encore mieux dans les années suivantes en prison. Jusque-là, il n'avait pas ouvert le Capital, il n'avait pas eu la possibilité, ni aucun des ouvrages principaux. Et d'ailleurs, on devait voir quelques années plus tard que quand l'histoire d'Uring s'est produite, les partisans de Uring se sont recrutés aussi bien par des anciens Eisenariens, parmi les anciens Eisenariens, qui considéraient Uring comme le plus grand génie de tous les temps et que Marx aurait dû le reconnaître et que c'était par jalousie que Marx ne le reconnaissait pas. Aujourd'hui, ça peut paraître vraiment comique, mais ça s'est passé comme ça. À tel point que le congrès du parti a failli condamner l'organe central pour avoir publié les articles, les chapitres de l'anti-During d'Engels. Et qu'il a fallu que ça rentre. Alors, et que là, d'ailleurs, Liebknecht, au contraire, s'est mouillé à fond pour Engels et fait éviter ce qui aurait été un scandale sans précédent en se fâchant très sérieusement. Il savait donc qu'il n'avait pas les éléments pour rassembler une fraction politique sur l'ensemble de son programme et que d'autre part, il savait, j'ai dit, qu'il n'y avait pas d'appareil bourgeois, de fraction cohérente étrangère, de groupe clandestin, de lassalien comme il y avait eu les bakounistes et de rien de ce genre. Il savait que l'unité allait constituer un appel à la classe qui allait venir nourrir un parti qui était encore deux petits groupes qui se rassemblaient et qui allait rapidement se renforcer. Il savait enfin qu'il était quand même vivant, et Engels aussi, et que par là même, il conservait non pas une fraction, mais toute une série de gens, y compris d'ailleurs Liebknecht lui-même, de trois mois plus tard. C'est Liebknecht qui a mené une véritable campagne pour obliger Engels à écrire contre Düring, lui écrivant lui-même, lui faisant écrire par d'autres que ça allait très mal et qu'il fallait à tout prix qu'il prenne la plume. Engels n'en avait aucune envie. Il le dit lui-même, j'ai dû laisser l'étude de la famille de la famille matriarcale et patriarcale. Il travaillait sur ce qui devait plus tard constituer l'origine de la famille, ce qui était passionnant pour m'occuper de l'ennuyeux du ring, n'est-ce pas? Ça l'a occupé 18 mois quand même. Bon, alors donc, il savait qu'il conservait toutes ces possibilités-là, et que dans ces conditions, une rupture publique aurait été complètement incomprise des ouvriers allemands, alors que, comme tu le rappelais, il pensait au contraire qu'après tout, les ouvriers verraient dans le programme non pas ce qui est écrit, mais ce qui n'y est pas écrit, à savoir un programme de classe. Voilà ce qui explique sa tactique, et non pas qu'il n'attachait pas d'importance à la théorie, ça c'est assez clair, ou qu'il n'attachait pas d'importance au programme. Mais simplement, la fraction marxiste, c'était Marx et Engels. Il n'y en avait vraiment pas d'autres qu'on puisse dire marxistes à 100%. C'est-à-dire, ils ont compris ce que ça voulait dire, bien qu'il y aurait toutes sortes de gens qui... Liebknecht, quand il est intervenu 3 ans plus tard à propos de l'anti-During, a dit « Comment pouvez-vous envisager même de censurer l'homme qui, en 1800, s'agissait seulement d'Engels, le compagnon de Marx qui nous a donné, etc. » Enfin, il a fait un discours dithyrambique. Et d'ailleurs, les autres ont reculé à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il avait compris Marx, non. Sûrement pas. Liebknecht à aucun moment, le père. Bebel beaucoup plus. D'ailleurs, Bebel s'est trouvé beaucoup plus souvent en accord avec eux pendant toute leur vie, bien qu'ils aient eu des conflits là aussi. Bon, voilà ce qui explique sa tactique, qui, encore une fois, signifie quand même quelque chose de très fondamental. C'est-à-dire que nous considérons que le regroupement sur la base du programme est essentiel pour la fraction trotskiste, mais la fraction trotskiste n'oppose pas son programme au développement du mouvement de la classe ouvrière. Parce que dans ce cas-là, ce programme deviendrait une idéologie au lieu d'être l'expression même de ce mouvement. Après tout, notre stratégie de la Ligue ouvrière révolutionnaire, notre tactique dans l'Alliance ouvrière ou dans les comités pour l'unité ouvrière, nous sommes prêts à nous regrouper pour combattre pour le gouvernement des organisations ouvrières unies, y compris avec des gens qui sont contre la dictature du prolétariat ou qui s'en moquent, ou qui sont pour la démocratie avancée, ou ce qu'ils voudront, ça ne veut pas dire que nous renonçons à en discuter avec eux. Et ça ne veut pas dire que Marx renonçait d'ailleurs à faire circuler sa lettre parmi les cadres sociaux-démocrates, et il l'a envoyé à ceux qu'il fallait pour que ça circule quand même parmi une vingtaine de personnes, c'est-à-dire les seuls qui pouvaient attribuer de l'importance à cette discussion à ce moment-là. Tout cela, n'est-ce pas, encore une fois, la tactique que nous avons de ce point de vue n'est pas d'abandonner notre programme et de dissoudre l'OCI, certes. Dans la résolution du 13e congrès qui fonde, c'est expliqué dans les enseignements de notre histoire, qui a inauguré la ligne vers la Ligue ouvrière révolutionnaire comme stratégie de construction du parti révolutionnaire, s'exprimant tactiquement sous la forme, entre autres, de l'Alliance ouvrière et aujourd'hui des comités... Merde, je pense que ça va être enregistré, c'est-à-dire. Ils vont pas comprendre, en plus, mais c'est vrai que de toute façon, ils ne recevront pas la bande maintenant, c'est bien, parce que ça, c'est autre chose. Bon, il faudra le relire, tu effaceras ça, parce que c'est... Bon, de toute façon. Bon. Donc, elle n'est pas foncièrement... La résolution du 13e congrès dit en même temps que l'OCI doit être constituée comme fraction séparée, rassemblée sur la base du programme, c'est clair. Mais cela tient aussi à ce que, historiquement, nous nous rattachons à un regroupement qui s'est fait sur la base de ce programme. Dans le cas de Marx et d'Engels, il n'y avait pas une telle fraction qui aurait pu se rassembler sur la base de des idées correctes sur la question de l'État, parce que certainement sur la question de l'État, à ce moment-là, pratiquement personne ne comprenait ce que Marx avait expliqué, que ce soit en Allemagne, que ce soit n'importe où. Ce n'est pas par hasard que l'idée de la destruction de l'État bourgeois ne se trouve même pas sous la plume de Rosa Luxembourg, qui lutte continuellement pour la conquête du pouvoir, et qu'il faudra attendre que Lénine, comme il le dit, déterre ces vieux textes oubliés dans l'État et la Révolution. Bien, la question de la brochure, ce que dit le camarade est intéressant. Moi, j'aurais tendance à considérer que cette brochure n'est pas si difficile, mais c'est sans doute une erreur d'optique, ça c'est bien possible ce qu'il dit. En tout cas, s'il dit que c'est difficile, sinon pour lui, au moins pour d'autres à qui il pourrait le vendre, il doit avoir raison, ça se discute même pas. Je veux dire, c'est moins difficile que d'autres choses. Il est certain néanmoins que c'est une brochure qui, elle, est faite avant tout pour toucher des militants de la JS, des membres des comités d'alliance ouvrière, des militants de l'OCI. Oui, mais justement, et que quant à la question d'en faire d'autres, qui soient d'un niveau tel, qui soient beaucoup plus accessibles à d'innombrables jeunes, ça c'est une question qui est valable et que dans les brochures de formation, il peut y avoir des deux sortes. Bien qu'il faut comprendre que la deuxième sorte est une difficulté extrême à faire, ceci dit, c'est pas une raison pour que ce soit un faux problème. Mais si je posais la question tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, elle est très loin d'avoir été vendue aux membres de la JS. Alors c'est pour ça que je posais, autrement dit, de ce point de vue, ça n'est pas une objection valable à sa diffusion plus large que ça ne s'est fait. Nous en sommes très loin. Alors, peut-être que les membres de la JS, il y en a qui ne comprendront pas, ben dans ce cas, il faut aussi pouvoir provoquer une discussion dans le cercle, dans un groupe, dans ce qu'on voudra, et expliquer ce qui n'est pas compris. Il faut envoyer une lettre ici pour qu'on réponde, soit que je réponde, soit oralement, soit dans le bulletin, et l'utiliser dans le cercle. Il faut aussi agir, il ne faut pas se contenter que les camarades ne comprennent pas, et il faut le lire avec eux s'il le faut. Parce que du point de vue de la forme, je crois que cette brochure a été réécrite de manière à être assez claire. Il n'y a pas de... Je crois en tout cas, enfin, il n'y a pas les difficultés que vous pourriez trouver dans le tome 2 de Défense du Trotskisme qui a été édité en dépit du bon sens. Et qui, de ce fait, de toute façon, ça ne serait pas un texte facile. Si vous avez le tome 1 que vous connaissez, ben, ce sont des questions qui sont de nature difficile, ça on n'y peut rien. On ne peut pas les rendre faciles par la magie du style, en admettant que ça suffise. Non. Mais enfin, il est incontestable que le tome 1 de Défense du Trotskisme, tout en traitant de questions de difficultés analogues, est plus lisible. Du moins, c'est mon avis. Et ça, je ne sais pas si vous les avez lus, vous pouvez comparer. Mais là, je crois que du point de vue de la forme, cette brochure ne présente pas de difficultés du même genre, de paragraphes qui tiennent trois pages ou de choses de ce genre, ou de fautes d'impression nombreuses et qui rendent le texte illisible. Alors, le sujet reste pas de la plus grande facilité, ça c'est vrai. Mais maintenant, il y a cette brochure, et je crois que vraiment le camarade qui dit cela devrait... Enfin, je crois que ce qu'il faut, c'est d'abord au moins... Personne ne demande, encore une fois, qu'elle se diffuse à 20 000 exemplaires, ce qui répondrait pourtant aux possibilités de diffusion d'une brochure qui serait accessible à tous les contacts, à toutes les connaissances de la JS. C'est-à-dire que c'est de l'ordre de 20 000 et des CAO. Mais au moins que les membres de la JS l'aient tous. C'est-à-dire, quand on voit, quel est le chiffre pour l'AER ? 120. Voilà. Quand on voit dans l'AER de la région parisienne, n'est-ce pas, il s'en est diffusé 120, eh bien on comprend que, enfin, à mon avis, je dirais aux camarades, qui, il est vrai, n'est pas dans l'AER, mais enfin, qu'il doit y avoir des obstacles et des freinages pour sa diffusion, qui sont d'une autre nature que sa difficulté éventuelle pour certains. Ou alors les militants de l'AER savent déjà tellement tout ça qu'ils n'ont vraiment pas besoin de lire la brochure. Moi, en tout cas, j'y ai appris des choses. Ça, je suis convaincu, je suis tout à fait d'accord qu'il en aurait pris bien davantage, mais est-ce que l'argent serait rentré? Parce qu'il y a eu de ce point... Ben oui, tu vois bien, toi-même, tu ne t'y engagerais pas, n'est-ce pas? Bon, alors, or, il se trouve que la direction de la JS, et de ce point de vue, je suis entièrement solidaire de son point de vue, considère qu'elle ne se satisfait pas du fait qu'il est parti beaucoup de brochures de ce local dans des directions diverses si l'argent n'entre pas, et qu'elle a pris cette mesure draconienne parce que précisément deux autres brochures, l'argent n'était pas rentré. Alors évidemment, elle est draconienne. Ceci dit, il est quand même possible, disons, à chaque membre de cette école, s'il pense pouvoir la vendre dans son cercle, de sortir 3 francs et d'en prendre une de plus. Et à ce moment-là, de recueillir... Alors je suis d'accord que si... dans tel cercle, si on disait, vous en prenez ce que vous voulez, vous payez ensuite, eh ben, tel cercle en prendrait 20, alors qu'il viendra en prendre 5, comme ça. Mais il pourrait venir en prendre 5. Et de toute façon, tu comprends, il y a là un problème qui est aussi un problème réel, c'est qu'il faut que l'argent rentre. Et comme personne, y compris toi, ne peut donner la garantie personnelle que l'argent rentrera s'il emporte les brochures, ben alors on le fait verser l'argent avant, c'est simple. C'est simple, c'est une situation qui n'est pas parfaite, qui est transitoire, qui est tout ce qu'on voudra, mais de toute façon, elle a des raisons. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Le résultat, c'est qu'il y a quand même plus de 2000 brochures payées, alors que si on en avait distribué 6000 et qu'il y en ait 500 de payées, ben la situation serait... À aucun égard, elle ne serait bonne parce qu'il n'y aurait aucune garantie que les 6000 soient même lus. Sans parler du fait qu'on ne peut pas sortir des brochures sans argent et qu'on ne peut pas les distribuer gratuitement. Tu vois, c'est ça le problème. Alors c'est un problème à discuter en cercle. Si un responsable de cercle vient et dit « je suis machin, voilà mon adresse, voilà tout sur moi, je prends ces 10 brochures et je garantis personnellement qu'il le signe, je viens payer dans 15 jours, on lui donnera. Mais je ne crois pas qu'il y a beaucoup de responsables de cercle qui s'engageraient personnellement et en disant je me démerderai, si je ne les ai pas vendus, je vous amène mon fric à moi. Mais je m'y engage formellement, signé à un tel, telle adresse, on peut me trouver à tel endroit. Je ne suis pas très sûr que tous les responsables de cercle prendraient un tel engagement, parce que l'expérience montre qu'ils ont pas vu que... Enfin, faut quand même pas croire qu'ils avaient décidé de ne pas amener l'argent, hein, tu comprends. Or, tu sais très bien que ce n'est pas toujours rentré. Alors voilà, c'est tout. Maintenant, ceci dit, si la solution raisonnable, à mon avis, serait que même s'il est prêt à prendre cet engagement, il réfléchisse, et qu'il réfléchisse que dans ce cas, il peut sûrement en payer la moitié d'avance. Parce que s'il est si sûr que ça d'avoir payé le tout, il peut au moins payer la moitié d'avance. Dans ce cas, on peut discuter. Il appartiendra aux camarades de l'AJS qui connaissent les cercles, aux responsables, de décider si on peut croire à l'engagement de tel camarade sur la base de leurs connaissances qu'ils ont, si on ne peut pas. Mais seulement, tu vois très bien qu'on ne peut pas adopter cette méthode en général. Et encore une fois, c'est pas ça qui justifie qu'il y en ait que 120 vendus dans l'arrière de la région parisienne. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai, parce que d'abord, les gars, ils passent ici, et qu'individuellement, quand ils passent, ils peuvent le payer. Même si c'était pas possible de rassembler de l'argent de 10 camarades par cercle, s'il y en a pas. Même s'il y en avait, ben, on en rassemble 10, puis les autres, voyant la brochure arriver et qu'ils n'en ont pas, ils sortiront leur propre. Hein. Bon. Ah oui, la CFDT. Bon, alors la CFDT, évidemment, il y a déjà dans l'IO de cette semaine un excellent article sur l'autogestion. Sur le reste, je ne peux pas répondre ce soir. Je verrai si c'est possible dans le bulletin ou dans le cadre d'une autre séance de discussion, parce que ça exige un développement particulier. Mais le programme ne dit pas que dans certaines circonstances exceptionnelles, les directions petites bourgeoises peuvent accéder au trotskisme et rallier la quatrième internationale. Il ne dit pas cela, et c'est ça que disent les pavlistes précisément. Les pavlistes parlent de Fidel Castro, marxiste naturel, qui rejoint la quatrième internationale par un processus spontané, en calomniant les trotskistes et de préférer de la manière la plus basse, en prêchant la capitulation aux mineurs du Chili, avec d'ailleurs peu de succès, puisque le lendemain, les mineurs ont voté qu'ils maintenaient leur revendication de 50% de hausse des salaires, situation assez agréable et qu'il ne faut jamais manquer de souligner parmi les amis de Castro dans vos relations personnelles immédiates. Il y en a certainement. Dites-leur bravo pour les mineurs du Chili qui ont craché à la gueule du bureaucrate contre-révolutionnaire Castro, allié de toutes les forces de la réaction mondiale et qui se fait maintenant le fourrier de l'impérialisme pour aller faire de la propagande en Amérique latine pour que les ouvriers capitulent. Les ouvriers chiliens, les mineurs chiliens l'ont craché à la figure. Bravo pour les mineurs chiliens qui maintiennent leurs revendications. Ça, c'est pas une petite chose qui vient de se passer là. On attend maintenant que Castro se rende au Pérou pour soutenir le dictateur progressiste, dont la progressivité se manifeste par le fait qu'il ne massacre que quelques dizaines de personnes, pendant qu'en Bolivie, on en massacre des milliers. Certes, c'est important, mais néanmoins, cela ne le transforme pas en pionnier de la révolution prolétarienne. On va voir ce qu'ils vont faire et ce que diront ces messieurs les pablistes à ce sujet, puisque Castro est toujours leur poulain, comme on sait. Donc ils n'ont pas dit que le programme n'a pas dit qu'ils allaient rallier le trotskisme. Il a dit qu'ils pouvaient esquisser une orientation révolutionnaire et la rupture avec la bourgeoisie. Il n'a pas dit qu'ils allaient conduire la révolution mondiale à la victoire dans aucune espèce de situation exceptionnelle. Sinon, il aurait dit, parce que Trotsky avait une certaine logique, dans ces conditions, on pourra se passer de construire la quatrième internationale, ce que Pablo, précisément, a commencé à expliquer sous une forme spécifique en 1951, de telle sorte que ses partisans immédiats dans la tentative de destruction de la section française à ce moment-là, le groupe de Michel Mestre, ont bientôt après tiré la conclusion jusqu'au bout et rejeté la quatrième internationale au rang des vieilles lunes. Pablo, lui, ne pouvait pas le faire parce que le secrétariat ne pouvait être secrétariat que s'il était secrétariat de la quatrième internationale. Quant au fait qu'il trahisse le trotskisme au nom de Trotsky et sur la base et en prétendant s'en réclamer, cela n'a rien de particulier et d'exceptionnel, mais au contraire procède de toute la bureaucratisation du mouvement ouvrier. Alors, ce qu'a dit le camarade Claude, je m'excuse, j'aimerais mieux qu'il rédige par écrit, parce que comme ça je pourrais mieux lui répondre, je ne suis pas sûr d'avoir parfaitement compris, j'aimerais qu'il l'écrive. Ce qu'a dit le camarade au sujet des tendances légitimes et illégitimes, Mais précisément, certainement, enfin, si j'ai dit dans un moment d'aberration que le stalinisme était en tant que tel une tendance légitime, un produit naturel du mouvement ouvrier, eh bien c'était un moment d'aberration. Le stalinisme est le produit de la dégénérescence de l'État ouvrier soviétique, c'est-à-dire non pas du mouvement historique d'émancipation de la classe ouvrière avec toutes ses composantes telles que l'histoire l'engendre, mais au contraire d'un accident historique de ce mouvement qui, au sens de l'histoire universelle, n'était pas à l'avance quelque chose de nécessaire et d'inévitable dans la marche vers le socialisme, bien que d'une certaine manière le contingent soit le nécessaire, autrement dit que la loi, la nécessité de l'histoire universelle se réalise toujours à travers une série de contingences et d'événements fortuits et de tournants et de déviations du cours général à travers laquelle ce cours général se réalise néanmoins. Il n'était pas inévitable que la contre-réforme catholique triomphe en Europe à la fin du XVIe siècle, alors qu'au début, au contraire, tout paraissait annoncer la victoire de la culture et de la civilisation sur la puissance obscurantiste barbare de Rome et de l'Espagne coalisées. Et à la fin du siècle, à la fin du même siècle, la contre-réforme catholique tient le haut du pavé. Ça, c'était pas... bien que n'ayant pas triomphé complètement et n'ayant pas pu atteindre l'Angleterre, mais elle triomphera bientôt en France à son tour avec Louis XIV et la révocation de l'édit de Nantes. Bon. Et pourtant, c'était l'époque de la révolution bourgeoise qui avait commencé au XIIIe siècle avec Étienne Marcel. Et elle s'est réalisée à travers une série d'accidents historiques, de reculs en arrière. À notre époque, ça va plus vite. Le stalinisme n'est néanmoins, du point de vue de l'histoire universelle, qu'un accident, un détour pris par l'histoire. Détour qui nous a coûté assez cher, certes, détour qui nous pose bien des problèmes, mais c'est comme ça. Bon, donc le stalinisme n'est pas une tendance naturelle, sauf qu'actuellement en France, l'une des composantes du parti stalinien, c'est le réformisme, incontestablement, ce qui ne fait pas du parti stalinien une tendance réformiste. À l'intérieur du parti stalinien, il y a des cadres révolutionnaires, il y a aussi toutes sortes de petits bourgeois réformistes qui ont trouvé le milieu convenable pour eux, parce que c'est un grand parti, que le Parti Socialiste est un petit parti, et qui en Allemagne serait sans difficulté dans le SPD, où il dirait pratiquement la même chose, sauf en politique extérieure, et encore, la paix, pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce que ça peut gêner? Et en Angleterre, il serait secrétaire d'un trade council quelque part, bien tranquillement. Alors, c'est cela qu'il faut comprendre. Bon, je ne veux pas éterniser la discussion là-dessus. Peut-être il faudra la reprendre si le camarade l'estime nécessaire. Encore une fois, qu'ils prennent leur plume. Les questions écrites, les questions orales se justifient si elles permettent une brève réponse sur un point précis. C'est pas pour limiter les questions que je dis ça, et tout le monde pourra parler, y compris. Mais en écrivant, l'effort que font les camarades est tout à fait positif, parce que d'abord ça les aide à éclaircir leurs propres idées et à voir au moins à délimiter ce que exactement ils ne comprennent pas et ce que avec quoi ils ne sont pas d'accord. Et moi ça m'aide aussi beaucoup. Je n'ai encore mis 3 réponses cette fois-ci, mais comme vous avez vu, elles sont assez longues. La fois d'après, je continuerai. Et d'ailleurs, ces 3 réponses répondent au moins à 10 lettres, parce que j'ai choisi chaque fois la plus caractéristique d'un certain problème.